J'ai eu envie de chanter très fort, je me suis retenu pour le bien de l'humanité. Comment ça va? Merci Lortistou pour ce message. Top les replays de revue de presse, ça m'a fait ma journée d'hier sur la route en peau de caste. En peau de caste. Oui, le sommaire est déjà prêt, je vous le cache, je vous le cache. Ça travaille de plus en plus, il y a de plus en plus de rigueur, d'investissement. Le sommaire, il est prêt, c'est incroyable ça. On va lancer chez les amis de TikTok pour deux fois plus de chat, deux fois plus de folie. C'est parti. Je lance sur Twitch d'abord. Alors, il est où le chat? Il est là. Voilà. Trop bien, on a enfin une timeline dans Twitch pour revenir en arrière. Je vous ai vu parler de ça ce matin, c'est nouveau quoi. Salut King Julian, salut les amis de TikTok également. C'est quoi cette histoire de timeline dans laquelle on peut revenir en arrière? C'était pas le cas? Plus besoin d'aller sur le replay? Mais c'est. Attends, c'est une vraie révolution. Mais c'est une vraie révolution. Amis de TikTok, pardon, on parle d'une fonctionnalité sur Twitch. Maintenant, quand tu es en live sur Twitch, tu peux revenir dans la TL, dans la timeline, sans avoir besoin de repasser dans le replay. Oui, c'est tout neuf, tu vois la barre YouTube? Ouais, je vois. C'est pareil. Ok, incroyable. C'est fou. Salut. Cochite débris, quel plaisir de consommer cette revue de presse en live. Je t'écoute tous les jours sur la route en allant, en rentrant du boulot. Tu sais qu'on a le podcast maintenant, hein? C'est vraiment spécifiquement pour ça, hein? On a commencé lundi. Tous les jours, sans faute, en général à 16h, on balance sur toutes les plateformes de podcast audio, les Spotify, les Deezer, la revue de presse, quoi. Ah, c'est pas sur téléphone, la timeline, ok. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui sont en voiture, en transport, à pied, que sais-je, voilà. Ah, on me dit que c'est pas sur téléphone, la TL, ok. Comme ça, hop, on fait une pause pipi, on loupe rien. Ok, incroyable. Samuel, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit avec toi. Hein? En voyant que tu portes le même sweatshirt qu'hier soir. Ah bah oui, le sweat, on ne lave pas tous les jours, attends. Bon, c'est vrai que. C'est Zera qui m'avait dit, m'a donné un conseil il y a longtemps, sur mes débuts de streamer. Il m'a dit, tu sais, c'est important de changer de t-shirt tous les jours. Pas pour l'hygiène, non. Mais pour que les gens voient bien que c'est un autre live. J'ai changé de t-shirt. J'ai même pris une douche ce matin. Incroyable. Mais le sweat, il est tout clean. J'aurais pu changer de sweat. Mais je l'aime bien celui-là. Ah, puis hier soir, c'était gaming. Et là, ce matin, c'est revue de presse. L'inocratie, ton excellent jeu de mots, t'as donné un petit théo de. Allez, je suis sympa, 5 minutes. Voilà. Prochaine fois, c'est un petit théo pour toute la durée du live. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. D'ailleurs, il était bien le stream d'hier soir. On a beaucoup parlé de Sarkozy ce matin, évidemment. Une douche, ouais, j'ai pris une douche. Ouais, donc tablette, téléphone, vous n'avez pas la TL. C'est sur PC, d'accord. Le stream d'hier soir était super. Ah, merci, Olinox. Donc, tu étais avec nous sur Twitch. Ok. Alors, hier soir, on avait Carlito, le célèbre YouTuber de McFly et Carlito qui était avec nous. Pour l'accompagner, je dis nous parce qu'il y avait la commu, sa commu, la nôtre, et trois amis en five stack. Et on l'a accompagné sur ses premiers pas sur Valo, et il s'est montré assez doué. Il a fait ses premiers kills, c'était une super soirée. Ambiance très chill. Ambiance de daron, hein. On a parlé de famille, de paternité, des enfants. On a même commencé à débriefer un peu Sarkozy. Et après, on a joué et on s'est régalé. 4 unranked, 4 parties. C'était pas de la ranked, 4 wins. Voilà. Donc, Monsieur Carlito, à ce jour, a 100% de win sur ce jeu. Mon fils adore jouer à Valo. Alors, Fred, c'est un super jeu. Attention à son côté un peu addictif quand même. Merci beaucoup, guerrier sur du pain, pour ton message bien cool. Tu penses quoi de Nicolas Cage? Ah, ben, Nicolas Cage, GOAT. Famille Coppola, grande famille de cinéastes, neveu de Francis Ford Coppola, si je dis pas de bêtises, immense acteur, avec une particularité d'avoir tourné dans des grands films et des immenses nanars. Voilà. Tu sens qu'il y a des films qu'il a fait un petit peu pour la banque et d'autres qu'il a fait parce qu'il trouvait que c'était des bons films. Je lis les messages TikTok, dame, bien sûr. J'en ai lu plein déjà. Normalement, tu devrais t'en rendre compte. Les plus intéressants et aussi les plus fous. Tu devrais songer une rencontre Étienne avec lui. Ouais, je fais un peu moins de rencontres Étienne, mon sugar, parce que il y a un manque de temps. Je travaille surtout sur le nouveau jeu unitaire que je suis en train de vous préparer là. J'ai deux invités sur trois, du public, un cinéma parisien, ça va être incroyable. Il paraît que Sarkozy se lance dans la bijouterie high-tech avec peut-être une nouvelle collection de bracelets électroniques. On valide, Ambi. Je crois que c'est... quelqu'un vient... Oui, c'est toi. Tu viens d'écrire littéralement 4 ou 5 fois d'affilée dans le chat TikTok. Samuel Etienne sans vêtements. Moi, c'est ma seule capacité. Hein. C'est le seul truc que je sais faire. Je sais lire. Je sais lire et je lis très vite. Donc, c'est littéralement la cinquième fois que je vois ta phrase. Donc, tu peux arrêter de spammer. Si tu veux me voir sans vêtements, il faut aller sur Twitch. Point d'exclamation OF dans le chat Twitch. Tu tombes sur mon OnlyFans. Et là, tu vas me voir sans vêtements. On est sur un érotisme chic, on est sur l'élégance à la française, on n'est pas sur quelque chose de hardcore. Hein. Voilà. Voilà. Mais ça, j'ai pas le lien sur TikTok, faut aller sur Twitch. Point d'exclamation OF, OnlyFans. L'abonnement est pas très cher. Voilà, je poste assez régulièrement de nouvelles photos avec un léger effet de halo, de flou. On est sur quelque chose de plutôt chic. Oui, tout en sensualité artistique, en subtilité, exactement, c'est ça. Ouais. Je viens d'arriver à ce moment-là, c'est réel. Oui, best omelette, oui. Oui, tout à fait. Tu déchires. Merci, merci Charlize. Oh, oui, c'est vrai qu'une des dernières photos, j'avais des bottes. Ok, tu lis vite, mais est-ce que tu lis bien? J'adore voler les vannes. Ok. N'hésitez pas. j'avais pas ton OnlyFans, du coup, je vais aller voir. Bah oui, Jérémy, n'hésite pas. Pourquoi tu as mis un pull du Scruff? Du Scuff! Pardon, je croyais que tu avais rajouté un R du SCUF. Parce que c'est un club de sport que j'aime beaucoup, tout simplement. Cette photo avec la feuille de vigne est incroyable. Oui, alors alors, je ne sais pas si tu as scrollé, mais il y a un moment où je l'enlève, la feuille de vigne. Hein. La feuille de vigne, c'est la première photo, mais après, il y a toute une série. Et il y a un moment, la feuille, elle... Il y a un coup de vent, la feuille, elle s'en va. Hein. Ouais. J'aime beaucoup les photos avec le gros buzzer. Ah oui, c'est une vieille série, celle-là, elle est sympa. Salut Isaac, force. Rickroll, je ne vois pas de quoi tu veux parler, Ugas. Mais il paraît que le Rickroll, il marche plus, que c'est cassé. Top 1 du Spotify de Louis Sarkozy, mon papa à moi est un gangster. Mon papa à moi, joli cœur, salut. Est un gangster, mon papa à moi est un gangster. Une feuille de bananier, oui évidemment, sinon c'était trop petit. Oui. Samuel Etienne, demain la une des journaux, Samuel Etienne de point le plus gros buzzer de France. On valide. Merci Isaac, ça nous est tous arrivé. C'est un moins bien pour un mieux. C'est que ce n'était pas la bonne histoire. Il y a une page de redirection sur le... Ouais, ça casse la vanne. Ouais, nul. Ouais. Bonjour Samuel, j'ai vu que tu participais au grand concours GC. C'est quoi GC? J'ai participé au grand concours des animateurs sur TF1 en profit des Restos du Cœur. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles. Salut Jamal. Est-ce que tu as déjà réacté à un article de toi qui parlait de toi dans une édition de la matinée Tune? Ça a dû nous arriver, ouais, vite fait. C'est demain soir d'ailleurs sur TF1, ok. Sugar me dit que demain soir, le grand concours des animateurs spécial... Resto du cœur, c'est sur TF1 et effectivement, je participe. C'est de la télé. J'apprécie Lucas, j'apprécie ce bonjour que tu envoies. Tu joueras à Ghost of Yotei. C'est vrai que ce jeu, il a l'air assez incroyable. Ça sort dans quelques jours, non? Ah, c'est intéressant, Surf. Je vais essayer de trouver un truc là-dessus. Ouais. Peut-être pas aujourd'hui, mais je regarderai. Ouais. Sur la fiscalité en Espagne. Sam, t'as vu Delphine? Donc tu passes de Delphine Ernotte et monté au créneau chez Fogiel pour défendre France Télévisions face à CNews. Récemment ou... Parce que les propos où elle accuse CNews d'être une chaîne d'extrême droite, ça a plusieurs jours déjà. Tu parles de ça ou tu parles d'un truc plus récent? Fogiel, il est où maintenant d'ailleurs? RTL ce matin? Il est sur RTL ce matin, Fogiel? Je suis perdu. C'est Fogiel le matin maintenant? Il a repris la matinale, Fogiel, ça? Je crois qu'il voulait plus faire ses horaires. La matinée, c'est tous les matins, ouais. L'Onocta, du lundi au vendredi. Voilà, c'est vraiment... C'était un rendez-vous fréquent avant. Maintenant, c'est un rendez-vous tous les jours. Du lundi... Ah, c'est intéressant, super l'autre que tu dis. Bon, j'espère que tu as beaucoup de plaisir dans tes activités d'aujourd'hui. Du lundi au vendredi, tous les jours. Voilà. Du lundi au vendredi, tous les jours. Et quand je peux pas, eh ben, ce qui est exceptionnel, je la fais dans la soirée. On se réveille à quelle heure quand on présente une matinale? En télé, en radio, en général, on se lève vers 2 heures. On se lève à 2 heures et on est au boulot à 3 heures à peu près. Salut Zizi Bazooka, j'adore ton pseudo. En vrai, comment tu fais pour travailler plus vie de famille, plus stream? Bah, en fait, moi déjà, je travaille quasiment plus en télévision, hein. Longtemps, j'ai cumulé tout ça, c'était un peu compliqué, mais là, moi, la télé, j'en fais quasiment plus. Donc mon activité pro aujourd'hui, c'est le stream. Et ça me rend très heureux d'ailleurs. Et c'est prenant, mais c'est gérable, hein. Salut Joss. Merci Nicodème, merci pour. T'as vu, hein, on a travaillé sur une nouvelle DA mise en page du stream TikTok, quoi. Je vous montre rapidement TikTok. Avant c'était compliqué parce que les articles, on les lisait sur le fond du chat, blanc sur blanc, et du coup, les articles, on les voyait pas trop. Et du coup, je vous ai mis le sommaire en haut là. Voilà. Et les articles dessous, et le chat un peu en dessous, je pense que c'est beaucoup plus lisible. Donc merci Nicodème, merci Jérém, merci Maël, merci Awesome, Awesomezor, Awesomezor, Awesome, it's Awesome, Awesomezor pour le 3e mois, merci Pouli pour le 19e mois, merci Kinison pour le redire. Bonjour à tous, je suis peut-être dans le gaz, mais comment se fait-il que je n'entende pas le live? Est-ce qu'on peut répondre à Dina qui manifestement a un petit problème de son poil coupé sur le côté gauche TikTok? Let's go! Tu sais quoi? Hop, on va bouger ça tout de suite. C'est mieux là? C'est mieux là? Audely, la mise en page est vraiment agréable comme ça sur TikTok, ça fait plaisir. Ah, en parlant de stream ce soir, Valo, non, grosse pause de stream! Grosse pause de stream. Parce que j'emmène la famille en Bretagne ce soir. Donc je stream pas ce soir. Je stream pas cet après-midi parce que j'ai des rendez-vous. Et je stream pas samedi parce que je suis en Bretagne. 100% famille le week-end. Et je stream dimanche soir. Ça me plaît, mon émission du dimanche soir. Merci Sarrazin Méfiant, tu régales. Merci Superloot pour le Prime. Merci Zel pour le Prime. Mon rendez-vous du dimanche soir depuis. C'est la 3e année, 3e saison, où je reçois une invitée, un créateur, une créatrice de contenu. Ce sera Trinity, cette fois, la streameuse que j'aime beaucoup, hein, qui est engagée dans un voyage autour du monde de stream depuis longtemps et qui va continuer après, qui est de passage en France et qui vient dimanche soir chez nous. Les articles, Sofiane? Sofiane sur TikTok demande que je décale aussi à droite un peu les articles. Est-ce que vous validez sur TikTok ou pas? Voilà. Bon, j'ai un vrai souci, j'ai 600 mails urgents de boulot à traiter. Et là, je suis un peu en retard là. Merci, Andby. Coucou, personne ne parle de la flottille, c'est incroyable. Tiens, regarde, je te montre le sommaire. Deuxième ligne, flottille pour Gaza attaquée. On en parle dans un instant. TikTok, les articles, vous voulez que je décale? Là, j'ai qu'un retour pour l'instant. J'ai que joli cœur. Je vous montre. Est-ce que je décale sur la droite? Attends, je vous montre un article par exemple. Où est-ce que ça va? Je suis de Bretagne, salut les Nahons. Les meilleurs. Où en Bretagne? Vers Montélimar, cette Bretagne-là. Vous êtes plusieurs à me demander. Moi, alors ma vie privée, vraiment, je l'expose. Moi, je dis tout. Je dis tout, je ne cache rien. Donc, c'est la Bretagne de vers Montélimar. Quelques millimètres feraient pas de mal. C'est plus beau au centre. Ah oui, mais après, il y a mon visage. Très légèrement à droite, let's go. Très important le visage. Présentateur melon, quoi. Et comme ça? Et comme ça? Encore un peu? Encore un peu? Stop, nickel, stop, c'est mieux, parfait. Sarkozy va-t-il faire du Karcher en prison? C'est encore coupé. Ah, le Sofiane, c'est quoi ton téléphone? C'est un Nokia 3310, non? Peut-être encore un petit peu? Ok. Tu joues avec le petit ver de terre là, sur ton écran, sur ton téléphone? Dans ce cas-là, c'est je vois d'où ça vient. Là, c'est super là. Merci Nathan. Pardon, je vous lis un petit peu, c'est mon petit plaisir du matin. Bonjour Samuel, je viens de lire un article sur tes loisirs. Alors je répète la phrase doucement parce qu'elle est très intéressante. Ta question est intéressante, monsieur Dante. Bonjour Samuel, je viens de lire un article sur télé loisirs. Parfois, je mets un accent tonique sur le mot important. Sur télé loisirs. Ils disent que tu penses arrêter Twitch. Alors, moi, je ne veux pas dire du mal d'un média, mais disons que dans les sources d'information, il y a différentes qualités d'information. Voilà, tu remarqueras que je ne lis pas Télé Loisirs le matin pour vous informer sur la marche du monde. Alors, est-ce à dire que je ne considère pas que Télé Loisirs est une bonne source d'information? Est-ce à dire que je suis en train de vous dire que je ne sais même pas s'il y a un humain derrière cet article, ou plutôt une IA ou un bot qui essaie de vous faire cliquer sur un article avec un bon gros titre qu'on appelle putaclic dans notre jargon pour vous faire cliquer, parce que derrière il y a de la pub. Des articles sur comme ça, il y en a des tous les jours. Voilà, donc ça va chercher un truc. Je sais même pas s'il y a un humain derrière. Voilà, donc ne fais pas attention à ces infos-là, quoi. C'est quoi tes bonnes sources d'information? Du coup, ben on en parle tous les jours depuis 5 ans, dame. Donc, je ne peux pas te répondre en 2 secondes là, mais tu vas voir qu'on en parle pendant tout au long de ce stream. Ah, c'est parti en groupe Vivendi? Ah, c'est une énorme surprise, ça. Énorme surprise. On parlera du groupe Bolloré et de son intention éventuelle de racheter le Parisien ce matin. Je vais vous en parler assez sérieusement. Je vous en parle dans le sommaire. Ce qui nous permettra de parler de qualité de sources d'information, d'ailleurs. C'est très subjectif d'ailleurs. Mais bon, par exemple, moi je préfère lire Le Monde que Télé Loisirs. Tu es déjà allé en Charente-Maritime? Je vais répondre à Nimu qui spamme cette question depuis un petit moment déjà. Sinon, le pauvre ou la pauvre va passer sa matinée littéralement à se demander si je suis déjà allé en Charente-Maritime. Pas trop. Est-ce que Fort Boyard est en Charente-Maritime? Je crois que Charente. C'est ça? Fort Boyard est en Charente-Maritime? Auquel cas, je suis allé 5 fois. Puisque j'ai fait Fort Boyard 5 fois. Un jour, est-ce que tu peux nous faire un cours sur la valeur d'une information et comment bien la traiter? Bah, Clem, on en parle littéralement tous les jours de ce sujet, en fait. Au travers de la lecture des journaux. Brut a vraiment été racheté? Vous êtes plusieurs à m'en parler. Brut a été racheté par qui? Par qui? Qui a racheté Brut? Je viens de découvrir que tu as fait Fort Boyard, je dois rattraper. Ouais, pas obligé en vrai. Par le mec de. Ah, par Saadé? Par le groupe C, comment on dit, CMA CGM? D'accord. Brut a été racheté par. Brut, ils ont payé les charges, ils sont devenus nets. Arthur Hézio, la blague est validée. Arthur Saadé, ok. Groupe CMA CGM, c'est eux qui ont la Provence à Marseille, c'est eux qui ont racheté BFM aussi, si je dis pas de bêtises. Ok, c'est marrant, je. Dommage, c'est un sujet que j'aurais bien voulu traiter, mais j'ai pas vu l'article là-dessus, je devais pas bosser ce jour-là. Brut racheté. Brut, c'est un média qui a jamais vraiment gagné d'argent, mais à mon avis, les gens qui ont créé ce média l'ont sûrement bien vendu. Ah ouais, c'est à 2 semaines, ouais. C'est intéressant. Du coup, Charles Villa est parti. Ok. Il n'y a aucun article qui font exprès de pas en parler, parce que j'ai littéralement 2 pages dans Le Monde, là. Donc, encore une fois, il vaut mieux lire Le Monde que Télé Loisirs. Télé Loisirs, on n'en a peut-être pas parlé, mais Le Monde, manifestement, oui. J'ai un article dans Ouest France, j'ai un article dans Radio France, j'ai un article dans Les Échos, j'ai un article dans Le Parisien, j'ai un article dans L'Humanité, j'ai un article dans Libération, j'ai un article dans Le Figaro, j'ai un article dans Sud-Ouest. Donc, personne n'en parle. Enfin, en fait, si tous les médias que moi je lis en parlent. Alors, qu'est-ce que dit Le Monde? Le média en ligne brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé. Ok. Après finalisation de son acquisition. Qui s'ajoute à celle d'autres médias comme BFM, je vous le disais, RMC, la radio. Ok. Le journal La Provence aussi à Marseille, hein, je le disais. Ok. La Tribune aussi, c'est à ce même groupe. Corse Matin. Ok. Comment ça a été vendu, ça? Hein, les cofondateurs du média en ligne, ils ont dû voir un petit chèque. Un petit chèque. Renaud Levent-Kim et Guillaume Lacroix continuent d'accompagner la stratégie de Brut. Il n'y a pas le montant du chèque. Il n'y a pas le montant du chèque. Tu as parlé du déficit de France Télé? Ouais, on en a parlé pendant plus d'une heure là, cette semaine, ouais. Dans une revue de presse précédente. T'as ça en replay. Ah, je disais, c'est un média qui a jamais gagné trop d'argent, Brut. Brut qui emploie quelques 250 salariés et s'est réorganisé ces dernières années pour faire des économies. Ça a été très longtemps déficitaire et rentable depuis le premier trimestre 2023. Oui, c'est très récent. Non, il n'y a pas de scène, Alexandra. Je vous lis l'article comme ça, vite fait. Je peux vous le montrer, hein, vite fait, sur Twitch. Ok, il n'y a pas le montant du chèque. Alors, c'est intéressant, c'est un média qui a été très peu bénéficiaire, mais à mon avis, les gens qui sont à l'origine de la création de ce média, dont certains que j'ai croisés dans ma vie professionnelle, ont dû recevoir un petit chèque quand même. C'est pour ça que j'aurais bien voulu connaître le montant du chèque. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, les amis, un chèque énergie. Tu as l'air d'avoir une grosse correction sous tes lunettes. T'as une myopie de combien? Je suis pas loin de la cécité. Je suis presque. On est pas loin d'être aveugle là, ici. Hein. J'ai une très grosse myopie. Depuis tout petit, hein, j'ai commencé à avoir des lunettes. J'avais 7 ans. Et je suis très, 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 très myope. Donc, je ne vois pas au-delà de cette distance. Hein. Oui, une taupe. Voilà. En plus jolie quand même, parce que récemment, on a vu une photo de taupe étoilée hein, lors d'un réa question pour un champion. Je trouve pas ça très joli. Mais au-delà de cette distance, je ne vois pas. Voilà. Je porte des lentilles sinon le reste du temps, ouais. Mais t'as joué sans lunettes, lentilles. Tu vas nous serrer là. Ah non, je suis vraiment totalement miro, ouais. Non, l'opération, non. J'aime bien, j'aime ma myopie. Vous êtes plusieurs à me demander, mais pourquoi tu te fais pas opérer? J'aime bien cette myopie, j'aime bien ce côté flou. Enfin, flou. On est au-delà du flou, là, mais j'aime bien. Je suis comme ça depuis tout petit, et puis ça me va en vrai. Je mets des lunettes, comme ça me donne l'air sérieux en vue de presse. Je mets des lentilles, sinon, j'aime bien. Bien sûr, je lis les comme TikTok, je vois. Je suis pas là juste pour les stats, hein. Merci, Sugar. C'est une vue. Oui, la vue. Oui, tu as raison, Lester. La vue d'un myope est une vue artistique. C'est une vue impressionniste, en fait. Alors, à mon niveau, c'est très, très impressionniste, mais. Le monde autour de toi quand tu es myope, les contours sont pas nets, tout est un peu flou, les couleurs bavent les unes sur les autres, c'est une vue impressionniste très jolie. Enfin, je pense que c'est joli jusqu'à moins 3, je dirais, moins 3, moins 3, 5. Moi je suis très au-dessus, donc là c'est... voilà. Disons que c'est un tableau impressionniste dans un musée où on a éteint la lumière, quoi. Bien sûr, spéciale dédicace à Basile, qui est le papa d'Eliott. C'est sympa, je trouve, un enfant qui demande une dédicace pour son papa. C'est une vue impressionniste qui laisse une grosse impression, surtout si tu n'as pas vu le poteau. Oui, exutoire, c'est vrai. Surtout quand tu es distrait comme moi. Tu donnerais presque envie d'être myope. Alors, je n'irai pas jusque-là quand même. Hein. Merci, FHB. Dans 2 heures, un article télé loisirs, Samuel Etienne est aveugle. Exactement, exactement. Ouais. Non mais c'est en fait, ce sont les articles que vous voyez comme ça, avec des titres qui n'ont aucun sens, et quand vous cliquez dessus, vous dites « Ah ouais, en fait, c'est ça, on nous a menti sur le titre. » Ce ne sont pas les articles pour vous informer, ce sont les articles pour faire du clic. Ce sont les articles pour faire de l'argent. Ce sont des médias qui ne devraient pas s'appeler des médias, d'ailleurs. Hein, ce sont des attrape-couillons. Je me demande même s'il y a encore des humains derrière ça, si ce n'est pas totalement informatisé, si ce n'est pas automatisé. Clickbait, c'est ça. Et en fait, donc il y a plein de médias comme ça sur Internet maintenant, avec des titres très accrocheurs. Voilà. Et puis en fait, on veut vous faire cliquer, on veut pas vous informer, on veut pas vous raconter des choses vraies, on veut vous faire cliquer, parce que derrière, il y a un article qui a aucun sens, mais surtout, il y a des pages de, il y a de la pub. Donc des médias comme ça, il y en a plein maintenant. Allez, bon, allez, je suis assez bavard, moi. Ici, la règle, c'est de faire des intros, des bonjours, des saluts, comment ça va, à peu près d'une demi-heure. Parce qu'après, moi, je suis très bavard, j'aime beaucoup prendre de vos nouvelles, j'aime bien qu'on discute de plein de choses et de répondre à vos questions, puisque c'est pour ça qu'on est sur des plateformes comme celle-ci, c'est pour échanger. Mais à un moment, la promesse, c'est de faire une revue de presse. Donc, 29 minutes d'intro, je pense que c'est le moment de faire un sommaire. Allez, attendez, juste avant, il y a NFGHL, je la fais vite fait celle-ci, qui nous dit bonjour Sam, j'espère que tu vas bien, j'ai une demande à te faire, demain c'est ça, 60 ans de mariage, c'est beau putain, de mes grands-parents Hubert et Marie-Françoise, ils sont fans de Question pour un champion, je voudrais leur faire une surprise avec une petite vidéo de ta part, merci beaucoup si jamais tu as ce message. Ok, tu es prêt? On y va. Comment... Attends, je vais enlever mes lunettes. C'est Hubert et Marie-Françoise, 60 ans de mariage. Donc manifestement, c'est tes grands-parents. Ok. Hubert, Marie-Françoise. Ok. 3. Eh, mais attendez, je... Il n'y a pas l'horloge là, il n'y a pas ce naze. Attendez. Mais pas dit... Ah si, il y a l'horloge. Si c'est bon, pardon. Si c'est bon. Si c'est bon. Ok. Hubert et Marie-Françoise. 3. Marie-Françoise, Hubert, bonjour, c'est Samuel Etienne, j'espère que vous allez bien. Là, on est sur Internet, on est sur Twitch et TikTok, mais j'ai appris que vous regardiez de temps en temps mon question pour un champion, et ça me fait bien plaisir. Je viens surtout d'apprendre que vous fêtiez vos 60 ans de mariage, et ça, c'est magnifique. Voilà, un grand bravo à vous, j'espère que vous allez fêter ça dignement. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, à très vite. In, out, copie, du coup, et hop, ça te fait un petit message. C'est trop chaud en vrai, 60 ans. Allez, on y va. Alors, on va afficher les sommaires. Hop, les sommaires. Voilà. Et les articles. Voilà, vous les avez. Ok. Le TC, on est à combien là? On est à 31 minutes. Let's go. Pour, comme ça, pour les gens qui verront le replay, ils sauront exactement quand est-ce qu'on a commencer. Donc on est à 31, ok. Donc on commence Sarkozy. Oh, on commence le sommaire, pardon, à 31 minutes. Ok, super. Let's go. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, on commence toujours par un sommaire. Un sommaire où je donne l'essentiel de l'info en 5-10 minutes. Comme ça, ceux qui n'ont pas 3 heures à me consacrer, puisqu'on sera, on est ensemble jusqu'à 13 heures à peu près, eh bien je vous donne l'essentiel de l'actu, quoi. Alors évidemment, Nicolas Sarkozy. Pourquoi ne pas, comment ne pas en parler ce matin? Un président en prison. Il est en tôle. Non, Christ, non. Tu lis trop tes loisirs. Il n'est pas en tôle. Il pourrait aller en prison. Voilà. Pour la première fois, pour un président de la Ve République, dans les prochains jours. Voilà. Un président en prison. L'ancien président de la République, pour ceux qui n'ont pas l'info, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le dossier libyen, hein, de financement de sa campagne électorale de 2007, si je dis pas de bêtises, et va être incarcéré. Ouais. Il a dit qu'il allait faire appel, oui, mais l'appel ne l'empêchera pas de passer par la case prison. La Croix, je trouve, nous propose l'article le plus carré ce matin. Et le plus apaisé aussi sur cette journée qui a conduit Nicolas Sarkozy en prison, voilà, avec une interview d'un historien qui essaie de contextualiser cette décision de justice. Voilà. J'aime cet article de La Croix parce qu'il essaie de, un petit peu de mettre un peu de raison et de rigueur dans tout ça, alors qu'il y a beaucoup d'émotions ce matin et beaucoup de gens qui disent c'est formidable ou des gens qui disent ah c'est très très grave, et il fallait pas faire ça, ou oui il fallait le faire. Voilà. Libération. Libération aime bien se faire plaisir au niveau des unes. La tôle. Pas facile à lire d'ailleurs, mais voilà. Je pense que ce la tôle qui barre la une de Libé, je décris la une pour nos amis qui nous écoutent en podcast. Merci d'écouter ce podcast, vous êtes super cool. Attends, il y a une phrase que je n'ai jamais dit, mais il paraît qu'on peut mettre des étoiles. N'hésitez pas à mettre des étoiles. 5 étoiles, c'est ça? Et donc, la tôle, vous avez ce titre qui barre toute la une de Libération avec le visage de Sarkozy derrière, avec des lettres qui ressemblent un peu à des barreaux de prison, quoi. Hein. Nicolas Sarkozy a donc été condamné jeudi à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. C'est bien ce que je disais, l'ex-chef de l'État a fait appel, mais passera quoi qu'il en soit par la case prison. Ok, merci Morgaus Kraft, merci Guilord, merci Noirambir, merci John la détente pour le raid que je n'avais pas vu, merci Corlam, merci Satoshi42, merci Bouletto, je n'ai remercié aucun sub, vous êtes incroyable. Putain 5 ans, alors les plus vieux vont se rappeler d'un putain 5 ans de Jacques Chirac, je crois que c'était les guignols qui lui faisait dire ça. Donc là, c'est putain 5 ans. Libération se félicite plutôt que justice ait été rendue, et en même temps, pas tant que ça, parce que Libération dit que c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Pour l'image que les Français ont des politiques et de la politique. Voilà. Donc on se penchera sur le dossier de Libération. Et puis, on lira le Figaro. Alors pourquoi ? Je vous ai choisi trois journaux pour en parler, parce que les regards de ces journaux sur ce sujet ne sont pas les mêmes. Et le Figaro trouve aussi que c'est une mauvaise nouvelle, mais pas pour les mêmes raisons. Le Figaro dénonce en fait cette décision de justice en disant que c'est ni fait ni à faire, que cette décision n'est pas fondée, que le président, l'ancien président Sarkozy n'aurait pas dû être condamné. Donc le Figaro prend la défense de l'ancien président de la République, ce qui n'est pas du tout l'avis de Libération. Donc je trouve... c'est intéressant de vous proposer ces deux regards pour que vous fassiez vous votre propre opinion. Quelqu'un me signale que l'édito de l'Opinion se prononce également contre la sévérité de la sentence, c'est vrai, mais comme l'Opinion était peu ou prou sur la même ligne que le Figaro, j'ai pas multiplié non plus les articles, hein. Mais on va opposer le Figaro et le Libération, et puis vous irez piocher vous dans les arguments qui vous semblent les plus séduisants. Merci Moisinck. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je suis toujours dans le sommaire, donc je vais vite, c'est l'actualité autour de la flottille pour Gaza, hein, tous ces navires, toutes ces personnes qui font, pardon, c'est le nez qui pique, c'est le rhume, qui naviguent actuellement à bord de plein de bateaux vers Israël pour tenter de rompre symboliquement le blocus, quand je dis vers Israël, vers la région, quoi, vers Gaza, pour tenter de rompre le blocus maritime israélien autour de Gaza, symboliquement bien sûr, hein. Et une flottille qui a été attaquée, attaque d'une violence inédite, nous dit Le Monde, contre cette flottille de Gaza, deux navires, précisément italiens et espagnols, ont été déployés sur place après un incident attribué à Israël. J'ai vu que l'Italie soutenait la Palestine, j'étais sur le cul, Ketzak. Alors moi j'ai lu un article comme quoi la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, songeait effectivement à son tour condamner Israël à propos de ce que fait le gouvernement israélien dans la bande de Gaza. Songeait à... Alors c'est ça l'info que j'ai vue. J'ai pas vu que l'Italie soutenait la Palestine. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. On aura l'occasion d'en parler. Donc Le Monde en parle. La Croix en parle. La flottille pour Gaza qui poursuit sa route malgré les embûches. Et puis, L'Humanité, qui historiquement est un journal pro-palestinien, en parle également. Voilà. Où est-ce que c'est ? Ouais. En disant, mais pourquoi la France n'envoie pas un... Puisque certains pays européens, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Irlande, ont envoyé des navires militaires pour protéger leurs concitoyens, les ressortissants de ces pays qui sont dans ces bateaux, eh ben, L'Humanité dit, et la France ? Pourquoi la France n'envoie pas un bateau militaire ? Non pas pour attaquer Israël, mais pour protéger les Français qui sont dans cette flottille. Quoi. Voilà, donc on lira ça aussi. Voilà. Je vais vous parler beaucoup d'actualités internationales ce matin. Et notamment de ce truc qui... Alors, je vous avoue qu'il y a des articles, parfois, je passe dessus, je dis, voilà, la flemme. La Moldavie. Je ne sais pas où c'est la Moldavie, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis nul en géo. Voilà, je ne vais pas leur parler de la Moldavie. Qu'est-ce que c'est ? Et puis après, tu lis l'article, tu te dis, ah, si, quand même. C'est où la Moldavie ? Ok. Ah oui, c'est en dessous de l'Ukraine. Ok. C'est au sud de l'Ukraine. C'est entre la Roumanie et l'Ukraine. Ok. Non loin de la mer Noire. Ok, d'accord. Et alors, sur le coup, moi, je... Clairement, hein, je vois cet article, je dis, je vais pas leur parler de la Moldavie. Et puis je lis l'article, je dis, alors le truc est un peu compliqué, mais c'est vachement intéressant. Des législatives, à quel moment je vais vous parler des législatives en Moldavie, quoi, hein, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles des élections législatives en Moldavie ? Eh bien, je vais vous en parler, parce que c'est vachement intéressant. Les élections de dimanche prochain, qui oppose le parti pro-européen de la présidente actuellement au pouvoir, Maya Sandu, aux forces politiques fidèles à la Russie, des forces fidèles à la Russie prêtes à tout pour faire basculer le vote dans le sens voulu par le Kremlin. Comme le résume Master Caillou, c'est pas mal résumé, hein, Europe ou Russie. Voilà. Alors, est-ce que c'est une... Alors, ça pose la question de l'ingérence russe dans ce scrutin. Voilà. Et notamment avec une vaste campagne de désinformation menée sur les réseaux sociaux, essentiellement sur TikTok, voilà, par des gens, par des intérêts proches de, du pouvoir russe. Voilà. Voilà. Le pays redoute le même scénario que la Roumanie. Roumanie, il y a eu ça. Alors que la campagne électorale a été dominée par une vaste campagne de désinformation de Moscou via des contenus viraux sur TikTok. En fait, je trouve ça super intéressant. Donc du coup, je vous parlerai des législatives en Moldavie. Je vous parlerai aussi de... Alors ça fait plusieurs jours que j'attends un article. Hein, où vous avez plusieurs pays européens qui ont signalé ces derniers jours des incursions dans leur ciel d'appareils qui pourraient être russes. D'avions, aéronefs, comment on appelle ça, les drones. Voilà. La Russie en général dit ah « bah, c'est pas nous ». Il y a beaucoup de pays, je crois que c'est même l'aéroport d'Oslo en Norvège qui a été bloqué pendant plusieurs heures, je crois. Voilà. Et, mais il y a plein d'autres pays. Et j'attendais un article qui résumait un petit peu tout ça. Oui, le Danemark aussi. Ouais. L'Estonie, la Norvège, ouais. Et alors là aussi, ils disent, bah, c'est pas nous. Et les autres pays disent, ouais, enfin, c'est bizarre quand même. Bon. Et donc, il y a un article qui parle un petit peu de tout ça. Derrière les incursions aériennes russes, la stratégie de la peur, la Russie nie, en dépit de l'évidence, être responsable d'incursions irrégulières dans les cieux de la Pologne et des Pays-Baltes. Il y a Abricot Sec, qui en fait est Vladimir Poutine dans le chat. Personne n'est dupe, mais Abricot Sec, je sais que, derrière ce pseudo bien français, Abricot Sec, c'est très bon. Évidemment, je sais que tu es l'actuel président russe, qui nous dit... T'es gentil, mais arrête la désinformation, s'il te plaît. Personne n'est dupe, tout le monde sait que tu es Vladimir Poutine et que tu surveilles mon stream. Ces violations viseraient à inquiéter les opinions publiques européennes en mettant en scène autant l'impuissance de l'OTAN que la témérité de la Russie. Bon, voilà un article que j'attends depuis quelques jours qui essaie de nous raconter cette histoire. Voilà. Et puis, puisqu'on parle de la Russie, on parlera aussi des États-Unis ce matin. Et là aussi, voilà, il y a Abricot Sec qui nous dit « Vérifie les sources ». Alors, je ne vais pas répondre à Vladimir Poutine dans le chat. Je vais t'inviter, toi, actuel président de la Russie, autocrate de la Russie, à vérifier tes sources. Et donc, on parlera des États-Unis avec cette question. Sur les sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont très pro-russes. Enfin, il n'y a pas beaucoup, en fait, mais ils sont très sonores. Voilà. Donc, de temps en temps, on en attrape un et on parle un petit peu avec lui, parce que c'est du content, c'est assez amusant, c'est assez intéressant. C'est toujours la même chose, d'ailleurs. Mais je pense qu'une chaîne d'info, enfin une chaîne qui parle d'info, il faut aussi qu'elle propose du divertissement, du sourire. Et on aime bien ça. Donc merci à Abricot Sec de nous proposer ce petit contenu divertissant ce matin. Est-ce que les États-Unis sont en train de devenir une autocratie? Est-ce que, pour dire les choses, le président Trump est en train d'abîmer la démocratie aux États-Unis? Alors ça, c'est un... Là aussi, il y a beaucoup d'articles en ce moment. J'ai trouvé un article dans La Croix que je trouve assez bien fait sur le sujet. On est toujours en sommaire, donc je vais au plus vite. Tu t'adresses aux jeunes, donc il faut être sérieux. Commence par déjà respecter la grammaire et l'orthographe dans tes messages et je te prendrai toi aussi au sérieux. Le Parisien, c'est... Il n'y a pas un truc qui vous interpelle dans Le Parisien? Il n'y a pas un truc qui va mal dans cette une du Parisien? Il n'y a pas un truc qui vous alerte? Qui va trouver la bonne réponse à ma question? La pub en bas, non. Le prix, non. Où est Sarko? Bah oui, ça parle pas de Sarkozy, ouais. Il n'y a pas Sarkozy. Vous savez pourquoi il n'y a pas Sarkozy? Parce que c'est le journal d'hier. Il n'y a pas de Parisien aujourd'hui. Jeudi 25 septembre 2025, Le Parisien n'est pas sorti. Le Parisien est en grève. Un journal comme Le Parisien qui ne paraît pas, moi, des journaux où il n'y a pas Le Parisien pour cause de grève, je ne me rappelle pas en avoir beaucoup connu des journées comme ça. Le Parisien est en grève. Donc ce matin, à À quelle heure je me suis réveillé? Vers 5h, quand j'ai voulu lire Le Parisien, j'ai pas trouvé le Parisien. Qu'est-ce qui se passe? Un bug, ma tablette qui marche pas, etc. Ils sont en grève. Et donc j'ai un article dans Libération qui en parle. Voilà, c'est ce dont je vous parle depuis quelques jours. Le Parisien est en difficulté financière, comme la plupart des journaux français, parce qu'il n'y a pas assez de lecteurs, voilà, pour des coûts qui ne cessent d'augmenter. Et donc, ils dénoncent le manque de moyens pour faire bien leur métier. Et surtout, il y a des rumeurs comme quoi l'actuel propriétaire du Parisien, le milliardaire Bernard Arnault, groupe LVMH, voudrait vendre le Parisien, parce qu'il en a marre de d'éponger les dettes, à un autre milliardaire, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qui détient déjà Europe 1, Canal+, CNews, le journal du dimanche, qui donc a construit un empire médiatique, en appliquant à cet empire médiatique une ligne éditoriale assez claire qui regarde plutôt à droite, très à droite, avec des, on va dire, des antennes assez engagées. Est-ce que Le Parisien, un des plus grands quotidiens nationaux français, issus à l'origine, il faut savoir que les grands journaux français, en fait, c'est que vous avez là, la plupart, en fait, ils s'inscrivent dans un courant issu de la résistance après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que l'un des plus grands journaux français va tomber dans l'escarcelle de Bolloré? Est-ce que dans Le Parisien, vous allez retrouver la ligne éditoriale de CNews, de Pascal Pro, d'Europe 1, du JDD dans les prochains jours? C'est l'inquiétude du journal. Et aujourd'hui, les journalistes sont en grève. Voilà. Donc, je vous en parlerai aussi ce matin. Et puis, on finira avec justement une réflexion sur... Il y a David qui dit ça changera des médias de gauche. Ah oui, c'est vrai, je peux te confirmer que Le Parisien, ça va changer. C'est sûr. Ouais. Hein, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, tu viens de qualifier Le Parisien de média de gauche, c'est assez intéressant. À propos de la presse écrite, il y a un truc qui me semble être un peu une révolution, qui est Substack plutôt, l'application de newsletter payante. Et Libération se pose la question, est-ce que cette application, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler encore, est-ce qu'elle va déplumer les journaux justement, est-ce qu'elle va les affaiblir? Voilà. Pas de contrainte de format, ni de ligne politique de rédacteur en chef. Si en France le phénomène débute, hein, en France il y a pour l'instant assez peu de journalistes qui sont sur Substack. Aux États-Unis en revanche, le site a séduit des journalistes, des intellectuels qui créent un lien direct, parfois juteux financièrement, avec des dizaines de milliers de lecteurs. Donc il y a des journalistes aux États-Unis ou des intellectuels qui ont ouvert leur page Substack, qui proposent des articles, des analyses, de presse écrite. On n'est pas sur un podcast audio ou vidéo. C'est des newsletters, ouais, voilà. Et aux États-Unis, il y a des journalistes qui en vivent très, 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 très bien. Voilà. Et en France, ça commence. Voilà. Donc, c'est un nouveau modèle économique. Évidemment, les journalistes qui sont sur Substack, du coup, ils ne sont pas dans les rédactions. Alors, certains peuvent financièrement tirer leur épingle du jeu. Et l'idée se demande si ça ne peut pas affaiblir les médias traditionnels, justement. On est dans cette recomposition des médias où ben, les Français sont de moins en moins nombreux à regarder la télé, à lire la presse écrite, à écouter la radio, et de plus en plus nombreux sur TikTok, Twitch, YouTube, Insta, l'info sur Internet et Substack. Quoi. C'est hyper intéressant. Voilà pour le petit sommaire de ce matin. C'est pas mal, hein? Il y a des choses... Je trouve qu'on a vraiment des choses intéressantes entre Sarkozy, la Moldavie, les États-Unis... La flottille sur Gaza, Le Parisien, etc. Rien sur ce qui se passe à Madagascar? Non, Crucide, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu ce matin. C'est le OnlyFans des journalistes. C'est joliment dit. C'est joliment dit. Honte à la justice, dit Gamet78, qui est venu défendre Nicolas Sarkozy dans le chat. C'est quoi l'autocratie? Très bonne question, Stas, on va en parler tout à l'heure, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, User420, merci de ton message. Je vous lis, c'est mon petit plaisir, et puis on enchaîne avec le premier article sur Nicolas Sarkozy. Oui, Carla Brunier avec le micro de Mediapart, oui, on a vu cette image, oui. On va en parler vite fait parce que c'est anecdotique par rapport au reste, mais si vous y tenez, on en parlera. Car là, le micro, exactement. Salut, est-ce que tu aimes bien la tournure que prend ta vie depuis quelques mois, quelques années? Oui. ça n'est rien par rapport à cette candidature à la présidentielle que nous allons lancer bientôt, qui nous emmènera à l'Élysée tous ensemble, mais j'aime bien cette séquence, oui. D'autant que je suis passé silver sur Valo. Bienvenue, Playrox. Est-ce que tu considères que les médias comme Hugo Décrypte sont bons pour la société ou sont orientés? Je trouve que Hugo Décrypte fait un excellent travail, oui. Candidature, oui, Red Batavia. On y va? On est parti? Ok, Sarkozy, quelle heure il est? 49, 50 minutes, let's go. Je vous le mets dans le sommaire, comme ça vous avez le TC. On met la petite flèche en face, comme ça le sommaire, c'est un truc qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, permet à ceux qui arrivent un petit peu en retard de savoir où on en est de la revue de presse. Un, deux, de savoir si on a parlé d'un sujet précédemment. On était fatigués un peu tous ensemble à cumuler les modos des gens qui arrivaient au bout d'une heure en disant « Ah, tu parles pas du Proche-Orient ? Hein, quel scandale !» alors qu'on venait littéralement d'en parler pendant une heure comme tous les jours. Et donc ça nous a un peu fatigués et on a créé ça pour que quand vous arrivez au cours de la revue de presse, vous sachiez si on a parlé d'un sujet avant ou si on va en parler après. Stivou, force, cœur sur toi. C'est le soulèvement de la population à Madagascar comme au Népal ? Eh bien, je vais suivre ça. On y va sur Sarkozy ? Merci Licante Tatou, merci Brazatlan, merci Elsa, merci Moisanque, merci à tous, merci Max, merci Jeannotrette, merci Lucas. Merci Camille qui vient d'offrir 4 abonnements à la communauté. Merci, tu régales. Ah oui, Eric Morillo. Ah oui, Pennet, un jour j'en parlerai de ça. Alors c'est un peu... Pour l'instant, c'est pas très exposé. Hein. C'est pas, on est sur quelque chose qui n'est pas très, très regardé encore. Mais j'ai beaucoup... Enfin, j'ai un peu croisé Eric Morillo dans ma carrière de journaliste. Et peut-être qu'un jour, les médias s'intéresseront à ce phénomène. Et ce sera l'occasion d'en parler un petit peu, ouais. Merci Tim, c'est normal. Merci Samuel de laisser le replay de la revue de presse sur Twitch accessible à tous. Moi je n'ai pas le sou pour m'abonner, ça me permet de rester informé grâce à toi. C'est le principe. On sub si on peut, si on peut pas, on sub pas. C'est gratuit sur Twitch, sur YouTube. Let's go. Un président en prison. L'ancien président de la République a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le dossier libyen et va être incarcéré. C'est la première fois. Hier, je reviens sur une erreur que j'ai faite, parce que je fais souvent des erreurs, bien sûr. Je ne suis qu'un humain et un journaliste, et donc ma parole est souvent faillible ou approximative. Hier, je vous ai dit, c'est la première fois qu'un président de la 5e est condamné par la justice. Alors, il y a eu Chirac, mais il n'a pas vraiment été condamné, et puis c'est Juppé qui avait pris à sa place. Pop, 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 pop. Non. Chirac a été condamné. Il a été condamné pourquoi, déjà, précisément ? Il a été condamné pour détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Voilà. Donc, Jacques Chirac a été condamné pour une affaire alors qu'il n'était pas président encore. Voilà. L'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Mais le premier président de la 5e ou ancien président de la 5e à être condamné, c'est Chirac. Donc ça, j'ai fait une petite erreur et je la corrige. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Nicolas Sarkozy a été le premier à être condamné à de la prison ferme. Puisque Chirac, lui, avait été condamné à de la prison avec sursis. Et puis surtout, ça n'arrête plus, puisque Sarkozy ne cesse d'être condamné. Il a déjà été condamné, il y a eu de la prison ferme, il y a eu du bracelet électronique dans l'affaire Paul Bismuth, hein, des écoutes. Il vient d'être condamné dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, et il y a plein d'autres jugements, notamment en appel, qui arrivent. Voilà, je crois qu'il y a un journal ce matin qui compte les affaires dans lesquelles il a été mis en cause, et on arrive à 11 affaires. Donc il est condamné une deuxième fois à de la prison ferme. La première fois, bracelet électronique, il a approché des 70 ans, donc à un moment il a demandé qu'on lui enlève le bracelet, donc on lui a enlevé le bracelet au regard de son âge, et là il vient d'être condamné, et a priori il va passer non plus par la case bracelet électronique, mais par la case prison. Donc, le président Sarkozy est devenu hier le premier président de l'histoire de la 5ème République à être condamné de la prison ferme, et le premier président de la 5e qui va sans doute passer par la case prison. Merci Alfidia, merci Cotelette, merci Hazard. Lisons l'édito de Séverin Husson. L'édito, c'est un article où un journal, un journaliste, donne son avis sur l'actualité. Ça ne vaut que ça. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette analyse. C'est marqué édito pour que vous sachiez que justement c'est un avis. Okay. De même que mes avis aussi, vous devez les remettre en cause. Ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. Satoshi, merci pour ces 5 abonnements offerts à la queue. La justice par principe. Je dormirai en prison la tête haute. Nicolas Sarkozy s'est montré bravache à la sortie du tribunal correctionnel de Paris qu'il a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé et exécution provisoire. Le jugement est pourtant exceptionnellement lourd, puisque pour la première fois de l'histoire de la République, un ancien président devrait prochainement dormir derrière les barreaux. C'est énorme. Comme vous dites, ce n'est que votre opinion. Merci Franck de redire exactement ce que je viens de dire. Merci beaucoup pour cette contribution à la revue de presse. Il a été condamné pour avoir laissé ses proches solliciter les autorités libyennes en vue d'obtenir un financement illégal de sa campagne 2007. Je relis cette phrase qui est essentielle. Il a été condamné pour avoir laissé ses proches solliciter les autorités libyennes en vue d'obtenir un financement illégal de sa campagne 2007 sans que la justice puisse prouver l'arrêté de ce financement. Il a été condamné pour association de malfaiteurs. Si la place d'un ancien président n'est évidemment pas en prison, écrit Lacroix, Nicolas Sarkozy est un justiciable, comme les autres. Or, dans 2 semaines, il est gracié, dit Tupac. Ça n'est pas possible. Qui peut gracier Nicolas Sarkozy? Le président Macron. Sarkozy ne peut pas être gracié dans 2 semaines. Pourquoi? C'est un point de droit, en fait. Il y a Plaise Guénon qui dit Macron va le gracier. Pas dans 2 semaines, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le président ne peut gracier un condamné que si il a été condamné définitivement. Et comme Sarkozy a fait appel, la condamnation n'est pas définitive. Voilà. Donc, dans 2 semaines, non. Après, peut-être. Au long de ses 40 ans de vie politique, l'ancien président a montré qu'il était prêt à beaucoup pour conquérir le pouvoir. Il a d'ailleurs été définitivement condamné pour corruption et trafic d'influence dans une autre affaire, celle dont je vous parlais tout à l'heure, l'affaire Paul Bismuth. Voilà. Bracelet électronique, tout ça. C'est ainsi qu'on peut lire ce jugement, une étape de plus du mouvement de fond de moralisation de la vie politique. Je relis cette phrase qui me semble importante. C'est ainsi qu'on peut lire ce jugement, hein, pour ceux qui regrettent ce jugement, qui sont en colère contre ce jugement, une étape de plus du mouvement de fond de moralisation de la vie politique. Y a un article d'un historien qu'on va lire dans un instant qui demande qu'on prenne un peu de recul en disant c'est pas si inintéressant ce qui se passe. Ça s'inscrit dans un mouvement de fond qui a commencé il y a longtemps déjà. Ce qui rend la décision spectaculaire et surprenante, c'est le mandat de dépôt. Les critiques sur la lenteur de la justice et la généralisation de l'exécution provisoire méritent d'être examinées. Mais plutôt que les répéter ad nauseam, chacun devrait garder son sang-froid. Les réactions ironiques de parlementaires de gauche sont tout aussi regrettables que les commentaires rageurs de députés de droite. Tout cela fragilise notre état de droit, électrise le débat public, je le vois dans les 2 chats que j'ai sous les yeux, accroît la défiance des électeurs. Ouais, c'est pas très bon ça. Plus que jamais, nous devons nous tenir du côté de la justice, réaffirmer notre confiance dans le travail de ceux qui la font pour respecter leurs décisions par principe. Voilà. Lisons l'article de la Croix qui nous donne les infos, les faits. Lisons après l'interview de cet historien qui essaie de contextualiser cette décision. Puis après, on lira Libération et la Croix et Le Figaro qui ne sont qui ont pas le même regard sur cette affaire. Merci. Merci beaucoup. La fonction présidentielle en prend un sacré coup. Ouais, moi je dirais la politique en prend un sacré coup. La journée qui a conduit Nicolas Sarkozy en prison. Article de la Croix. D'un seul coup, la salle d'audience s'est figée en retenant son souffle, dans un mélange de sidération et de gravité. « Oh !» entend-on depuis les bancs du public. « Mandat de dépôt !» vient d'annoncer la présidente du tribunal, prononçant ainsi les 3 mots que Nicolas Sarkozy redoutait sans doute par-dessus tout. « Mandat de dépôt », quelqu'un me demandait ça veut dire quoi ? Ça veut dire prison. Passage par la prison. mandat de dépôt à effet différé. C'est pas tout de suite, c'est pas Sarkozy au tribunal, on lui passe les menottes, let's go. Donc mandat de dépôt, donc prison, mais à effet différé, hein, ils vont préciser dans les prochains jours la date en fait. Et dans la salle, tout le monde a compris le moment historique qui est en train de se jouer. Pour la première fois, un ancien président de la République va aller en détention. C'est seulement le 13 octobre que Nicolas Sarkozy connaîtra la date de son incarcération. À l'énoncé de sa peine, l'ancien chef de l'État encaisse le coup sans rien dire. Merci, alors oui, pourquoi pas. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'il prendra la parole devant les médias. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. La haine n'a donc décidément aucune limite, c'est ce que dit Sarkozy. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent, rappelle Sarkozy, cette injustice est un scandale. Sarkozy qui va faire appel de cette décision. Mais appel qui ne l'empêchera pas de passer par la case prison, a priori. Ce jugement peut paraître paradoxal. Le tribunal envoie en effet un ancien président derrière les barreaux tout en le relaxant pour 3 des 4 infractions pour lesquelles il était jugé. Corruption passive, il n'est pas poursuivi. Recel de détournement de fonds publics, il n'est pas poursuivi. Financement illégal de la campagne, il n'est pas poursuivi. Donc pourquoi 5 ans de prison ferme ? C'est pour la 4e infraction, celle d'association de malfaiteurs. Avant de débat, de dire que c'est bien, pas bien, essayons de comprendre précisément de quoi il s'agit. C'est la base de la démarche de s'informer. Hein. Certains vont aller au café à 18h, prendre un apéro le vendredi soir et émettre un avis sur cette affaire qui n'aura été pas plus que ça documenté finalement. Et s'il tombe face à quelqu'un qui connaît un petit peu l'affaire et le sujet, il va vite être mis en difficulté dans son indignation ou son analyse de cette actualité, quoi. Surtout s'il a pris un ou deux Ricard. C'est pour la 4e infraction, celle d'association de malfaiteurs, qu'il écope de 5 ans de prison. En substance, donc là on arrive sur l'explication. Ah, te voilà, Poupito de Berlin, ça faisait longtemps. Alors, j'ai jamais. Alors, Poupito de Berlin, il vient souvent dans le chat Twitch, TikTok, et je comprends jamais ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un peut décrypter Samuel Etienne, le Xsocial. Xsocial, K-S-O-S-I-A-L. Et grand complotiste de l'État. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est toujours la même phrase. Personne ne l'a compris. Le Xsocial. K-S-O-S-I-A-L. Ah, le cas social. Mais pourquoi il y a deux S, il n'y a pas de C? Peut-être un problème d'orthographe. Et grand... Ah, cas social. D'accord. Bon, bah, je vous laisse discuter avec la personne parce qu'on va manquer de temps. Alors, c'est pour la 4e infraction, celle d'association de malfaiteurs qui l'écope de 5 ans de prison. Moi, c'est mon petit bonheur, c'est de lire le chat aussi quand... Surtout quand il n'a aucun sens. En substance, le tribunal estime que Nicolas Sarkozy a constitué une sorte d'entente avec deux de ses plus proches collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, pour nouer un pacte corruptif avec le régime libyen du colonel Kadhafi. Voilà, je vais revenir sur cette phrase parce que c'est ça qu'on lui reproche, enfin, que la justice lui reproche. Merci Romano pour le prêt. Le tribunal estime que l'ancien président a constitué une sorte d'entente avec deux de ses plus proches collaborateurs pour nouer un pacte corruptif avec le régime du colonel Kadhafi. Certes, le tribunal n'a pas établi que Nicolas Sarkozy, une fois élu à l'Élysée, puisque c'était dans le cadre de la campagne de 2007, a effectivement agi pour favoriser les intérêts du sulfureux leader libyen. Mais pour le tribunal, le seul fait d'avoir noué ce pacte corruptif suffit pour entraîner une condamnation. Et c'est là qu'il y a débat et que certains disent bah, il ne fallait pas le condamner, ou d'autres, bah si quand même. Avec une peine légèrement inférieure à celle requise en mars dernier par le parquet, hein, puisque lui avait réclamé 7 ans de prison. Pour comprendre, il convient de revenir un petit peu sur les éléments de l'affaire. Quelques épisodes de ce dossier libyen, merci Lacroix, qui nous fait... Il y a Poupito de Berlin, moi je... qui me régale, je te laisse une chance, de quelle forme est la terre, Sam ? Donc c'est Poupito de Berlin sur le cas social là, qui revient, je te laisse une chance, de quelle forme est la terre, Sam ? Je pense que pour passer ce test, il faut que je dise que la terre est plate. Poupito de Berlin, je pense que la terre est plate. Est-ce que j'ai bon ? Est-ce que j'ai bon ? Je pense que j'ai bon. Donc, en décembre 2007, Muammar Kadhafi est reçu avec faste à Paris par Nicolas Sarkozy élu président quelques mois plus tôt. Ok. Donc, Kadhafi reçu peu après l'élection de Sarkozy. Visite controversée durant laquelle le leader libyen plante sa tente bédouine dans les jardins de l'hôtel de Marigny. Je me rappelle très bien de cette image, c'est assez impressionnant. Pour la à l'époque, on s'est tous, tous les médias, on s'est dit, c'est quand même bizarre, le mec il plante sa tente dans les jardins de l'hôtel de Marigny. Pour l'accusation, cette visite était une contrepartie à un pacte de corruption qu'aurait noué Sarkozy en 2005, lorsqu'il avait rencontré, il était ministre de l'Intérieur à l'époque, Kadhafi à Tripoli. La thèse de l'accusation était la suivante, en échange d'un financement de sa campagne, hein, Sarkozy serait engagé une fois élu à favoriser le retour en grâce de la Libye sur la scène diplomatique. Hein. Win-win. Win-win. Ce qui pourrait expliquer sa visite en grande pompe et en grande tente, si je puis me permettre, à Paris en décembre 2007. Plus gênant, Sarkozy se serait aussi engagé à faire des démarches une fois à l'Élysée pour faire lever un mandat d'arrêt international délivré contre le beau-frère du colonel Kadhafi. Personnage infréquentable, chef des services secrets libyens, on parle d'Abdallah Senoussi, condamné en 1999 par la justice française à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir joué un rôle moteur dans l'attentat en 89 contre un avion DC-10 de la compagnie Utah, 170 morts, 54 Français. Voilà. Au final, le tribunal n'a pas retrouvé d'éléments permettant d'affirmer que Nicolas Sarkozy a effectivement tenu ses supposées promesses dans le cadre d'un pacte de corruption. Le jugement estime que le retour de la Libye sur la scène internationale avait déjà été amorcé par Jacques Chirac et que Sarkozy a inscrit son action vis-à-vis de Kadhafi dans la continuité de celle de ses prédécesseurs. La fameuse visite de décembre 2007 n'est pas non plus la preuve, selon le tribunal, d'un traitement de faveur particulier. À l'époque, Kadhafi avait été reçu de façon un peu identique par d'autres pays européens, notamment en Espagne. Le tribunal n'a pas non plus retrouvé d'éléments permettant d'affirmer que Sarkozy a agi pour essayer de faire lever le mandat d'arrêt contre Abdallah Senoussi, dont on parlait. Le jugement, ça c'est pas les journalistes qui disent ça, ce sont les juges qui disent bon, on n'a pas de preuves de ça. Le jugement relève aussi que certes les flux d'argent sont bel et bien partis de Libye en direction de la France, mais le tribunal n'a pas pu établir que cet argent est au final arrivé dans les caisses de la campagne de Sarkozy. Donc, le juge, à un moment, il dit, voilà ce qu'on n'a pas. Voilà les preuves qu'on n'a pas. Mais, si l'ancien chef de l'État est condamné, nous explique la Croix, c'est en raison de deux rencontres secrètes et très gênantes qui ont lieu en 2005. À quelques mois d'intervalle, Claude Guéant et Brice Hortefeux avaient rencontré Abdallah Senoussi, le fameux beau-frère, condamné par la justice française. À l'époque, Guéant était directeur de cabinet de Sarkozy. Brice Hortefeux était ministre. Il est donc pour le moins fâcheux que ces deux proches de Sarkozy discutent avec un terroriste condamné à la perpétuité par la justice française. Il paraît que c'est un peu... Merci encore, Romano. C'est un peu bizarre. Après, on ne condamne pas des gens pour des bizarreries, hein. Bien sûr. Alors, continuons. Pour l'accusation, ces rencontres visaient à établir les contours de l'accord de corruption avec la Libye. Une affirmation rejetée par Claude Guéant et Brice Hortefeux qui, à l'audience, ont affirmé avoir été piégés par les Libyens. Voilà. Ces derniers les auraient mis en présence d'Abdallah Senoussi sans qu'ils avaient été prévenus. T'arrives dans une pièce, il y a un mec, tu sais pas qui c'est, tu penses que c'est un gars qui va te faire un café, en fait, c'est un terroriste. Ces derniers les auraient mis en présence d'Abdallah Senoussi sans qu'ils aient été prévenus, et à leur retour en France, l'un comme l'autre n'aurait pas osé avouer cette rencontre à Sarkozy. Cette histoire de piège est une fable, estime le tribunal, convaincu que l'ancien président n'a pas pu rester ignorant de la démarche des deux proches. Pour les juges, ces rencontres occultes avaient bien pour but d'obtenir des fonds pour la campagne. En tant que ministre, président de l'UMP, Nicolas Sarkozy avait, entre 2005 et 2007, laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques, sur lequel il avait autorité agissant en son nom, solliciter les autorités libyennes afin d'obtenir ou tenter d'obtenir les soutiens financiers en Libye pour obtenir un financement de la campagne. Le fait que Sarkozy ait tenté de conclure un pacte de corruption via ses deux proches constitue pour le tribunal des faits d'une gravité exceptionnelle de nature à altérer la confiance des citoyens et ceux qui les représentent et dans les institutions de la République. Il y a Paulin qui dit « Mais ça n'aurait pas été possible que Sarkozy ne soit pas au courant ?» Ben c'est ce qu'il dit lui, effectivement. ce qui justifie sa mise en détention selon la présidente. Il est difficile de savoir combien de temps l'ancien président restera derrière les barreaux. Une chose est sûre, ce n'est qu'une fois incarcéré qu'il pourra saisir le juge d'application pour demander une éventuelle remise en liberté. Voilà. Je vous lis un petit peu, et après on lit l'interview d'un historien qui, pour contextualiser un petit peu. Merci Célia. Je vous lis. C'est vrai que là, je vois certains qui disent, mais alors il n'y a pas de preuve formelle, quoi. Hein, c'est en justice, tu peux être condamné s'il y a un faisceau de présomption, c'est ça? Mais c'est sur cet aspect-là qu'il y a débat. D'indice. Voilà. Faisceau d'indice, pardon. Convergent. Donc le débat, il est là-dessus, quoi. Donc certains d'entre vous vont dire, on a condamné quelqu'un sans preuve formelle, et certains vont dire, mais il était forcément au courant, quoi. Et on va lire aussi ce que dit Libération et Le Figaro là-dessus, ça va peut-être nous aider un petit peu à comprendre. En attendant ces deux articles, deux articles qui ne proposent pas la même analyse, on va lire cette interview de Mathias Bernard, qui est historien là-dessus, spécialiste de l'histoire politique, et qui estime, et je trouve ça très intéressant, que la condamnation de Sarkozy fait partie d'un mouvement de fond, la volonté de la justice de moraliser la vie politique. Celle-ci suscite des contestations croissantes de l'état de droit par les élus. En quoi cette condamnation est-elle historique? Demande Lacroix à cet historien. La véritable décision historique a eu lieu en 2004 lorsque la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Sarkozy à 3 ans de prison ferme dans l'affaire des écoutes, dont je vous ai parlé, c'est une autre affaire. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un ancien président était condamné à une peine de prison ferme, qui va être exécuté sous forme de bracelet électronique. Le seul précédent était la condamnation de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, mais c'était de la prison avec sursis. Sarkozy est innocent, n'est-ce pas? Et le téléphone a quitté pour échapper aux écoutes? Tu te trompes d'affaire, San. Ça, c'est l'affaire d'avant, c'est l'affaire des écoutes, dans laquelle il a été condamné. Là, nous, on s'intéresse à l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Ce qui frappe dans cette nouvelle condamnation de Sarkozy est le fait que sa peine soit assortie d'un mandat de dépôt, comprenez donc prison, signifiant qu'il ira en prison, c'est ce qui rend cette décision si marquante. Peut-on parler d'un séisme politique? Très intéressant. L'historien dit non. Un séisme suppose une rupture. Je le vois plutôt comme une étape d'un mouvement de fond à deux facettes. La volonté de la justice, d'une part, de moraliser la vie politique française avec des poursuites intentées aux hommes politiques beaucoup plus nombreuses que dans les premières décennies de la Ve, où il y avait une forme d'impunité, et d'autre part, une contestation des jugements par ceux-ci beaucoup plus virulente qu'elle ne l'était avant. Dans l'histoire de la Ve, il n'y a jamais eu autant d'attaques contre l'état de droit qu'aujourd'hui. Comme on l'expliquait, les discours anti-institution a toujours existé, mais ils provenaient surtout de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Nous sommes entrés dans un climat de remise en cause de la justice par les acteurs politiques de tous bords. Dès qu'il y a une décision de justice qui ne convient pas à un parti, c'est que la justice ne fait pas son travail. Depuis une quinzaine d'années, on assiste à la diffusion d'un populisme et de discours anti-élite et anti-système qui ne sont plus limités aux extrêmes. Parce que la droite aujourd'hui, la droite républicaine, la droite LR, dénonce aussi cette décision de justice. Cela aboutit à un discours contre une justice qui serait rendue de façon partiale. C'est intéressant. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est de lire deux journaux qui ne vous proposent pas la même analyse de cette affaire. Libération, qui, je le dis pour nos amis qui nous écoutent en podcast, a écrit un titre de une, La Tôle, avec une DA qui fait penser à des barreaux de prison. Et qui nous dit ceci dans son édito. Signé Paul Quignot. Certains s'en réjouissent de cette condamnation, pas nous. Libération, c'est un journal de gauche qui est assez... dont on peut pas vraiment soupçonner la sympathie pour Nicolas Sarkozy. Et pourtant, Libé dit, certains s'en réjouissent, pas nous. La condamnation de Sarkozy à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé a sans doute provoqué ici ou là des réactions de joie, une bonne blague ici, des éclats de rire, là, à tout le moins des sourires, peut-être même dans son propre camp politique. Un ancien président en prison, rendez-vous compte. Réaction à courte vue. Car il faut prendre la mesure de cette décision de justice qui constitue une première dans l'histoire de la 5e et elle vient confirmer que dans un moment de fragilité démocratique, à quel point le mal dont souffre aujourd'hui la politique française est ancien et donc profond. Car Nicolas Sarkozy pourra dire ce qu'il veut, il est évident que cette affaire de financement libyen de sa campagne de 2007 n'aura pu que contribuer, comme d'autres affaires politico-financières qui ont concerné la gauche, l'extrême droite ou l'extrême gauche, à creuser ce fossé entre les Français et leurs représentants. Fossé dans lequel la démocratie française s'embourbe avec, à terme, un seul gagnant, l'extrême droite, qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Et c'est évidemment un paradoxe aussi, puisque elle aussi a été condamnée, puisque Marine Le Pen, vous savez, était inéligible après avoir été condamnée dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen, enfin du détournement des fonds européens. Ce constat est injuste pour la grande majorité des hommes et des femmes politiques qui continuent de s'impliquer dans la vie de la cité, n'ont rien à se reprocher. Ils sont infiniment plus nombreux que ceux qui ont enfreint la loi, comme Nicolas Sarkozy. Mais la démagogie... Pardon, excusez-moi, je ris des excès de certains. Mais la démagogie et le populisme ne s'embarrassent pas de ces nuances, comme certains commentaires sur les réseaux sociaux, mais c'est ça qui régale. Derrière la condamnation de Sarkozy, c'est le tous pourri qui progresse, le classique. Il n'y a aucune raison d'en rire. La seule raison de se réjouir est en réalité l'indépendance de la justice, pilier de nos équilibres démocratiques et institutionnels. Il suffit de jeter un œil outre-Atlantique, donc en Amérique, pour se souvenir à quel point cette indépendance-là est précieuse, mais aussi fragile. Mais aussi fragile, pardon, pour la liaison. Voilà. Putain 5 ans, titre Libé. Qu'est-ce que dit Libé? Est-ce que Libé met en doute la qualité de la décision de justice qui vient d'être rendue? Lisons vite. Les infos, on les a déjà données, ok. Je vous relis pas ce qu'on a déjà lu, bien sûr. Je vous redonne pas les infos que je vous ai déjà données. Ce petit silence, c'est une lecture rapide. Bon, bah en fait, dans le premier article, il y a des infos que je vous ai déjà données dans la croix, donc je vous les redonne pas. Ça m'intéresse. Ce deuxième article, les motivations d'une déflagration. Parce que notre grand débat ce matin, c'est d'essayer, nous, de nous faire un avis le plus éclairé possible sur est-ce que la justice française a pris une bonne décision ou pas. La présidente du tribunal écrit Libé a détaillé les éléments de procédure qui démontraient que des actes préparatoires à une corruption de plus haut niveau avaient bien été effectués par Sarkozy et ses proches collaborateurs. Lisons. Au cours d'un délibéré qui a duré 3 heures, c'est long, hein, Nathalie Gavarino, la présidente du tribunal, s'est attachée à expliquer une décision à tiroir. En préambule, la magistrate a rappelé que le tribunal était saisi de 68 infractions. Certaines ont été écartées, faute des éléments suffisants. Mais oui, a dit la présidente, il existe bien un pacte corruptif scellé entre Sarkozy et ses plus fidèles lieutenants et le pouvoir libyen pour bénéficier d'un avantage dans la campagne électorale et accéder à la présidence en 2007. C'est ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs. Les mots les plus durs du long délibéré ont été prononcés au moment d'annoncer la peine de l'ancien président. Les faits qui lui valent une condamnation avaient pour objet de préparer une corruption au plus haut niveau et sont d'une gravité exceptionnelle. Il sera donc incarcéré prochainement. Le tribunal a considéré qu'il a laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques sur lesquels il avait autorité à agir en son nom démarcher le pouvoir libyen afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens en vue d'obtenir un financement pour sa campagne présidentielle. Ce que nous ne ferons pas, ce que nous ne ferons pas pour notre propre campagne de 2027, bien sûr, parce que c'est quand même très maladroit. Nous, on fera une campagne essentiellement sur les plateformes, sur les réseaux, donc on n'aura pas besoin de tous ces sous. Hein. Plusieurs pans de la procédure judiciaire ont été écartés par le tribunal car jugés trop faibles pour entrer dans le faisceau d'indices qui a mené à cette condamnation. La juge cite notamment la déclaration des dirigeants libyens intervenus dans le contexte de l'intervention de la coalition en Libye. En 2011, il y avait une dépêche de l'agence de presse d'État libyen qui évoquait un grave secret sur le financement de la campagne victorieuse de Sarkozy. Voilà. Donc ça, ça a été mis de côté. L'affaire démarre réellement en France. On va rappeler le rôle de Mediapart dans cette affaire. Le 28 avril 2012, avec la publication par Mediapart d'un document au titre explicite « Sarkozy-Kadhafi, la preuve du financement ». Cette note rédigée en langue arabe évoquait un ordre de versement de 50 millions d'euros tiré des caisses du régime libyen. Pour le tribunal, ce document n'est pas suffisamment crédible. Aucun élément n'a pu le corroborer. La présidente s'est même aventurée à parler d'un document publié par Mediapart, probablement faux. Donc la justice dit, ce document de Mediapart, on ne va pas non plus le garder. Une instruction menée pour savoir s'il s'agissait d'un faux s'est pourtant soldée par un non-lieu. Bon. Alors qu'est-ce que la justice a retenu finalement pour condamner Sarkozy? C'est la question qu'on se pose tous ce matin. Le tribunal a également décidé de mettre de côté les notes de Ziad Takieddine, qui est mort mardi au Liban, où il avait fui. Le rôle de cet affairiste est pourtant central, c'est lui qui avait fait le lien entre le pouvoir libyen et les proches de Sarkozy. Les notes de M. Takieddine, on ne peut pas en tenir compte que si elles sont corroborées par d'autres éléments, estime le tribunal. Vous voyez, le tribunal, quand même... Ouais, il est mort mardi, ouais. Bah, il est mort deux jours avant le jugement, ouais. Eh ouais. Le tribunal, il y a plein de trucs que le tribunal aurait pu garder contre Sarko, et dit non, ces preuves sont pas vérifiées, quoi. Alors, Guillaume nous rappelle que Takieddine était malade depuis longtemps. Quoi. Le jugement de la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris s'appuie surtout sur quoi alors? Sur les rencontres avérées. Sur les rencontres avérées entre les deux plus proches collaborateurs de Sarkozy et Abdallah Senoussi, donc le numéro 2 du régime à l'époque. Voilà sur quoi s'appuie le tribunal. Ces rencontres qui sont avérées, qui ont eu lieu. Et vous vous rappelez, les deux proches de Sarkozy, là, donc si je ne dis pas de bêtises, Claude Guéant, et comment il s'appelait le ministre de l'époque, là, Hortefeux, merci. Eux, ils ont dit, on nous a piégés, on a mis dans une pièce, il y avait un gars, c'était le numéro 2 du régime, on n'était pas au courant. Bon. À l'époque, le gars était quand même visé par un mandat d'arrêt après sa condamnation par la justice française à la perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 du TA qui a coûté la vie à 170 personnes, dont de nombreux Français. Imaginons que ces deux personnes nous mentent pour se protéger, pour protéger Sarkozy. Imaginons que ces personnes aient vraiment voulu rencontrer ce monsieur peu recommandable. Pourquoi ? Cette rencontre, elle a eu lieu, ça tout le monde est sûr. Et Guéant et Hortefeux, ils nous disent bah oui, mais on nous a piégés, on ne savait pas qui était ce monsieur. Bon. Mais supposons que ces gens nous mentent. Pourquoi Hortefeux et Guéant rencontrent ce monsieur? Ça, c'est la question que se pose la justice. Claude Guéant, directeur de cabinet, l'a vu secrètement à l'automne 2005 à Tripoli, donc c'est des rencontres secrètes. Hein. Une entrevue fortuite, un piège, a-t-il dit. Le tribunal balaie cette version. Claude Guéant l'a rencontré en connaissance de cause, de manière officieuse et discrète. Et le raisonnement est le même pour la rencontre quelques semaines plus tard entre Brice Hortefeux et Senoussi. Ah oui, les gars ont été piégés, mais à deux moments différents. Bon, c'est pas de chance. Les circonstances décrites par Hortefeux ne sont pas crédibles. Ces rencontres occultes d'Hortefeux et Guéant n'ont de sens que dans la nécessité d'obtenir des fonds. Ça, c'est la conviction du tribunal. Pour cette association de malfaiteurs, le premier a été condamné à une peine de, parce qu'on n'en parle pas des osos là, de 2 ans de prison, le second, 6 ans de prison, parce qu'il y a aussi de l'enrichissement personnel. Il échappe au mandat de dépôt en raison de son état de santé dégradé. Le second, c'est qui? C'est Hortefeux ou c'est Guillaume? Bref. Alors, quels sont les éléments retenus par la Chambre sur la mise en œuvre du pacte corruptif? C'était Guéant? C'était Guéant. Merci. C'est lui, c'est le monsieur, là. Si les déclarations de Takieddine au cours de l'enquête sur la remise de valises de cash sont extrêmement variables, il y a des traces avérées de virements de fonds libyens vers un compte contrôlé par Takieddine. Donc les traces de virement, on les a. Ce dernier a joué le rôle de chambre de compensation occulte, au moins 5 millions d'euros, qui ne peuvent venir de son seul travail pour les Libyens, estime le tribunal. Les magistrats relèvent aussi des retraits d'espèces importants, dans une temporalité proche avec la campagne présidentielle. Alors, quelqu'un me dit, Sugar me dit, bah donc c'est des preuves. Ah oui, sauf qu'il n'y a pas de preuve que cet argent, il est servi au financement de la campagne. C'est pas parce que de l'argent est tiré en cash sur ce compte qu'on sait forcément qu'il est dépensé pour la campagne. C'est pas parce qu'il y a, du fléchage d'argent de la Libye sur le compte de ce monsieur qu'on est sûr que c'est, tu vois, bah oui, c'est un travail rigoureux, quoi. Mais ça participe au faisceau d'indices concordants, quoi. Les carnets de l'ancien ministre du pétrole libyen Choukri Ghanem apparaissent aussi déterminants pour le juge, qui a acquis la conviction que ces pièces découvertes inopément dans une procédure liée à la mort de ce dignitaire en 2012, noyé dans le Danube, décidément, sont authentiques. Plusieurs virements sont consignés comme étant réalisés dans l'objectif de soutenir Sarkozy. Or, les sommes réellement versées sur le compte contrôlé par Takieddine sont équivalentes. Ah oui, donc je comprends que dans les carnets de ce monsieur, ancien ministre du pétrole libyen, dans les carnets, on a retrouvé les traces de virement où il était écrit que c'était pour soutenir Sarkozy. Et le problème pour Sarkozy, c'est que le montant de ces sommes sont équivalentes aux sommes versées sur le compte contrôlé par Takieddine. Comme dit Shido Shine, tiens, tiens. Ouais. S'il existe bien un pacte corruptif fomenté par une association de malfaiteurs, le tribunal a pourtant écarté les délits de détournement de fonds publics, de corruption, de financement illégal de campagne électorale. Parce qu'il n'y a pas de preuve que cet argent... Finalement, si j'essaie de comprendre, moi, simple journaliste que je suis, tout ce qu'on est en train de lire, il n'y a pas de preuve que cet argent ait réellement servi au financement de la campagne de 2007. En revanche, la justice estime qu'il y a des preuves qu'il y a eu volonté, il y a eu organisation pour le faire. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que Sarkozy n'est pas condamné pour détournement de fonds publics, corruption et financement illégal de campagne. Il est condamné pour pacte corruptif. Voilà, c'est intéressant. Ok, c'est clair. Ok. D'une part, écrit le... dit la justice, la procédure ne permet pas de fonder la démonstration que l'argent parti de Libye soit in fine arrivé dans sa campagne. Et d'autre part, il n'y a pas d'éléments suffisants pour caractériser ces actes positifs de Sarkozy une fois élu président pour mettre en œuvre ce pacte de corruption, pour remercier Kadhafi, pour dire les choses. Voilà. Bon, il y a un appel, puisque Sarkozy fait appel. Un second procès dans les prochains mois devant la Cour d'appel de Paris qui ne l'empêchera pas de passer par la case prison a priori. Merci Astrid Toucourt, merci Pécuman, merci à tous les deux, merci René, merci Wolf, merci Nelly Melimelo. Je vous lis. Alors je pense, artiste Lucas, que tu as posé cette question plusieurs fois, je vais te répondre parce que je vais te libérer pour te libérer un petit peu. Donc tu l'as posé 4 fois, donc c'est tes 4 premiers messages sur cette chaîne, donc je vais partager cette question d'artiste Lucas qui vient de nous rejoindre et qui a posé 4 fois la même question. Alors je vois toutes les questions, parfois je ne réponds pas pour pas aussi interrompre l'article que je suis en train de lire. Donc la question... d'artiste Lucas posé 4 fois, c'est « Bonjour Samuel », déjà c'est très sympa de dire bonjour, « es-tu ouvertement affilié à un parti mouvance poétique ?» Ouvertement, non. Après, secrètement, il y a peut-être un pacte de corruption qui, qui me lie à un parti politique. Te considères-tu comme plutôt de droite, de gauche, centriste, neutre? Artiste Lucas, je vais te répondre. Moi, mon parti, c'est la France. Moi, mon parti, c'est que ce pays retrouve une forme de paix civile, une forme d'entente, que nos débats internes nécessaires et tout à fait légitimes dans le cadre d'une démocratie continuent d'exister, ben, d'une façon peut-être un peu plus apaisée. Et surtout, je veux que soient créées les conditions de la prospérité dans notre pays pour que les forces vives de la nation se mettent en ordre de marche pour que d'abord les finances de notre pays s'arrangent, s'améliorent. Hein, vous savez que notre dette, l'endettement du pays devient problématique, pas tellement la dette que la charge de la dette, les intérêts. Hein, on passe de devenir le premier budget de l'État, ce n'est pas possible qu'une partie croissante de l'argent que nous prenons aux Français sous forme de taxes, d'impôts aux entreprises aille non pas financer l'éducation, la police, la sécurité, mais uniquement rembourser notre dette, ça n'est pas normal. Donc je dirais que l'urgence c'est cela. Et puis une fois que ce travail urgent sera réalisé, eh bien je serai à l'écoute de la société française, voilà, et de ses aspirations, puisque cette société française, elle évolue, et ses aspirations aussi, pour l'accompagner du mieux sur le chemin qui est le nôtre. Voilà. C'est ce qu'on appelle le samuélisme. Ce sera la philosophie qui nourrira notre candidature commune ensemble. Nous le ferons ensemble. Je serai président de tous les Français à la campagne 2027. Voilà, donc voici ma réponse. Bon, blague à part. Enfin, blague à part, on ne sait pas, hein. Continuons notre lecture des journaux. Bon, Libé, c'était pas mal. Alors, Libération Libération ne regrette pas cette décision. Libération regrette cette affaire parce qu'elle trouve que ça abîme encore plus le lien entre les politiques et les Français. Le Figaro regrette cette décision parce que le Figaro estime que cette décision, elle est infondée et que Sarkozy est innocent. Et pourquoi qu'on met un innocent en prison? Voilà. Le séisme. Absurde et incompréhensible. Bon, c'est extrêmement clair. C'est l'édito du Figaro. Yves Tréhard. Connais bien Yves. Quand j'étais à ITL, je le recevais souvent dans une émission sur de débat. Que dit Yves Tréhard? Jean de La Fontaine aurait pu en faire une nouvelle fable. Son génie, sa subtilité n'auraient fait qu'une bouchée de cette décision absurde. C'est extrêmement clair. On savait l'appareil judiciaire intraitable avec Nicolas Sarkozy, mais il s'est surpassé. Il lui avait infligé un an de prison dans le rocambolesque affaire Bismuth. Voilà qu'il l'envoie derrière les barreaux pour 5 ans ferme. Bon, il ira jamais 5 ans en prison, vous le savez. Dans un dossier qui ne tient pas plus debout, le financement de la campagne électorale 2007. Voilà, si vous pensez ce que pense Yves Tréhard de tout ça, je crois que c'est assez clair. Blanchi des accusations les plus graves qui lui avaient été collées sur le front par le parquet national financier, il est lourdement condamné pour une négligence... celle de ne pas avoir su ce que ses collaborateurs faisaient avec Kadhafi. L'association de malfaiteurs est retenue, mais suffit-elle à lui appliquer la sanction maximale en semblables circonstances? On parlait de millions, pourtant personne n'en a vu la couleur, pas plus que d'enrichissement personnel de la part de l'ex-chef de l'État. Bon, sauf que je crois que personne n'a vraiment estimé qu'il y avait eu enrichissement personnel. Depuis le début, c'est de savoir s'il a financé sa campagne présidentielle avec ça, quoi. On cherchait des documents compromettants sur celui qui n'était alors que ministre, mais il manque à l'appel ou son défaut. Voilà. Aux assises, le bénéfice du doute profite en principe à l'accusé. Voilà. Bon là, c'était pas les assises du tout, c'était tribunal correctionnel. C'est l'intention qui compte, dit la loi, mais comment, faute de preuves tangibles, la présidente du tribunal peut-elle évoquer une affaire d'une gravité exceptionnelle? Est-ce parce qu'elle est de nature à altérer la confiance des citoyens? Voilà. Qui a cru bon d'ajouter à la peine de prison un mandat de dépôt? Suprême humiliation, estime Yves Tréhard, comme si Sarkozy était en mesure de s'enfuir, de récidiver, de créer un trouble à l'ordre public. Alors de récidiver, non, il y a peu de chances que Sarkozy se représente à la présidentielle. De s'enfuir, Tout est incompréhensible dans ce jugement abracadabrantesque, oxymorique, qui ne correspond à rien au sens littoral du mot, sauf peut-être à considérer qu'il reflète l'hubris de la magistrature. Je ne sais jamais ce que ça veut dire, hubris. L'hubris, c'est la toute-puissance, non ? C'est la notion de toute-puissance, non ? Quel sens du mot hubris ? Ah non. Passion, orgueil, outrage, crime, transgression. Comportement orgueilleux, vision du monde caractérisée par la démesure. Le contraire, c'est sagesse. Le péché d'hubris, photographe qui consiste à se hisser au rang des dieux, à défier leur autorité par un excès d'orgueil. Faut comprendre orgueil, ego, d'accord, hubris. Merci à vous, vous êtes formidable. Sauf peut-être à considérer qu'il reflète l'hubris, l'orgueil de la magistrature. Celle-ci ne serait plus seulement la bouche de la loi. Nicolas Sarkozy ferait-il les frais de ces mots naguère peu aimables pour la corporation des magistrats ? Paye-t-il un règlement de compte politique ? La haine n'a pas de limite, il a des raisons de le penser, la gauche peut ricaner. Il me manque un mot là. Que je vais aller voir dans l'article. Je vais aller à la source. J'aime bien les sources ici. L'image de la patrie des droits de l'homme n'en sort pas grandie. Okay. En fait, le Figaro prend les mêmes éléments factuels que Libération, mais n'en tire pas les mêmes conclusions. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Lorraine Avoyance. Merci René, merci Croman, merci Croman. Merci Astrid tout court. Quelqu'un m'expliquer ce que veut dire Gaulien ? Gaulien, c'est en référence au général de Gaulle. Voilà. C'est cette Gaulle-là. C'est pas la... C'est pas la Gaule de Vercingétorix. Non, ça dérape pas. Gaulois, quoi. Non, c'est pas celle du matin. Non. Merci, Jox. Bah, donc, le Figaro, lui, n'est pas d'accord. Je lis rapidement le Figaro. Enfin, les infos qu'on n'a pas lues encore. Intéressant. Je fais des petits bruits comme ça, les gens qui nous écoutent en podcast savent que c'est pas un problème chez eux, c'est moi qui est en train de lire et de réfléchir. Comme ça permet de... Hein? Oui. Et puis j'ai remarqué sur TikTok quand j'arrêtais de parler... au bout de quelques secondes, le truc me disait « Ah, je crois que le live est terminé. » Ok. Ah, édito. Pardon. L'analyse d'Arthur Berda. Est-ce qu'on a assisté là à une exécution provisoire ou à une exécution politique ?
Jeu de mots.
La justice a ses raisons que la raison commence à comprendre. Vous avez... Bon, c'est un édito qui va sans doute défendre Nicolas Sarkozy, ok ? Plus les décisions des magistrats se suivent, plus elles se ressemblent et plus elles répondent à une question prégnante. Les exécutions que prononcent les juges sont-elles provisoires, comme le dit pudiquement le code de procédure pénale, ou bien politiques ? Après Marine Le Pen, privée en marge du droit de se présenter à une élection, voici Nicolas Sarkozy, privé de son droit à la liberté. Le double finaliste de la présidence, ancien président, a beau faire immédiatement appel, blablabla, blablabla, l'exécution prétendument provisoire est pour eux une exécution tout court. Relaxé de la quasi-totalité des chefs d'accusation qui pesaient contre lui, l'ancien chef de l'État a fait durant son procès la triple démonstration qu'il n'y avait pas une once de corruption de sa part. Pas un seul dinar d'argent libyen dans sa campagne victorieuse de 2007. Et pas un seul centime d'enrichissement personnel non plus. Mais les 3300 pages du code pénal regorgent manifestement d'une infinité de subtilités, dont la très commode association de malfaiteurs, concept rendu suffisamment malléable pour accabler ceux qui démontent une à une les accusations. Je vous résume l'article. Ce monsieur pense que Sarkozy a été en fait condamné parce que fraîchement élu à l'Élysée, il avait envisagé la suppression des juges d'instruction après avoir dénoncé l'uniformité des magistrats comparé à des petits pois sans saveur. Voilà, c'est une espèce de vengeance, quoi. Sortie salée que les intéressés n'ont jamais digérée. Bon, ben voilà. Demain, il y aura sûrement d'autres articles. Mais vous avez les faits, vous avez la motivation, pourquoi la justice a pris cette décision. Vous avez aussi des regards différents. Ceux qui disent oui, le faisceau de preuves concordantes permettent de penser qu'il y a eu volonté de, qu'il y a eu pacte de corruption pour, même si la corruption n'est pas avérée, nous n'avons pas les traces précisément qui montre que l'argent est arrivé sur les comptes de la campagne de Sarkozy, vous l'avez compris. Et les gens qui disent, bah, il n'y a pas les preuves, donc l'intention ne suffit pas. Voilà, et donc dans ce cas-là, il ne fallait pas le condamner. Voilà, bon, en gros, si on doit résumer à l'extrême, ce débat, c'est celui-ci. Après, maintenant, vous faites vous votre propre opinion là-dessus. Vu les montants, comment peuvent-ils ne pas en trouver la trace dans les comptes de campagne? Alors, a priori, il s'agit d'argent liquide, hein, comme on l'a compris à un moment, quoi. De retrait, de comptes qui ne sont pas les comptes de la campagne, en liquide. Après, voilà, si je dois imaginer, pour payer des locations de salles, tout ce qui sert à une campagne, location de salles, impression des tracts, voilà quoi. Ce qu'on fera pas, nous, en 2027, bien sûr, ce qui est quand même très maladroit. Les mallettes. Nous, on fera pas ça, nous, on fera ça avec des subs. Donc, ce sera traçable. Alors, Alice rappelle qu'une tentative d'homicide et une tentative d'effraction sont punies par la loi. Merci du reçu pour le raid, c'est adorable. Est-ce que tu vas sortir un format et faire des invitations pour les municipales? Non, je ne recevrai pas de politique sur ma chaîne, ça n'est pas prévu. Le seul politique que je recevrai sur ma chaîne, c'est moi. Allez, on enchaîne avec le deuxième sujet. On l'a passé combien de temps? 1h43. On a passé presque une heure sur l'actualité Sarkozy. Ça me semble pas mal. Ok, donc il est quelle heure? 1h43. Ok. Alors, on met la petite flèche. Ici. Et on précise le TC, comme ça, en replay, vous saurez exactement que nous passons au sujet suivant, 43 minutes après le début de cette revue de presse. Voilà. En tout cas, sur Twitch et YouTube, parce que sur podcast, on remonte un petit peu, on enlève le sommaire. Voilà. Et on va parler de la flottille pour Gaza attaquée, ce qui est un sujet important. Et comme sur TikTok, on vous aime bien aussi, je vais mettre la flèche au bon endroit également, devant flottille pour Gaza attaquée. Comment tu vas gérer la parité du temps de parole? Oh bah sans problème, puisqu'il n'y a que moi qui aura le droit de parler sur ma chaîne, donc ça va être vite fait. Hein. Mais comme ça n'est pas encadré par l'ARCOM, on s'en fiche. Non, ça. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette histoire de Flotty Bourgazin? Attaque d'une violence inédite contre la flottille de Gaza. On commence par cet article du Monde, hein, page 5, dans la dernière édition du journal. Deux navires, italiens et espagnols, ont été déployés sur place après un incident attribué à Israël. C'est quoi la flottille de Gaza? ADM, je vais te l'expliquer. Salut Hélène Amat. En moins de 24 heures, mercredi, une flottille humanitaire pour Gaza, a fait l'objet d'une attaque d'une violence inédite attribuée à Israël. Un navire militaire italien a été déployé vers la zone en réponse à l'incident, c'est tendu, suivi par un bâtiment espagnol. La situation est sans précédent. Il y a comme des navires européens militaires qui viennent protéger les ressortissants de leur pays dans ces navires contre des éventuelles actions israéliennes. Ces implications restent incertaines alors que les souffrances de Gaza mobilisent les opinions européennes. En Italie, lundi, des manifestations massives de soutien aux Palestiniens ont réuni des centaines de milliers de personnes. Cible de menaces ouvertes d'Israël, la Global Sumud Flotilla, quelqu'un me demandait c'est quoi cette flottille, et ses 51 navires ont entrepris de faire route vers Gaza, voilà plusieurs jours déjà, pour tenter symboliquement de briser le blocus maritime de Gaza par Israël. Symboliquement, bien sûr. C'est des petits bateaux, et il n'y a pas dans les cales de ces bateaux les médicaments, les soins, la nourriture pour venir en aide aux Gazaouis. Voilà. C'est pour briser ce blocus, symboliquement. Alors que les destructions meurtrières orchestrées par les forces israéliennes s'y intensifient, ce que nous documentons tous les jours depuis des mois, ici. Selon les équipages, plusieurs de ces embarcations ont été touchées mercredi par des fusées éclairantes explosives et par des grenades assourdissantes. Elles ont fait l'objet de lâchages d'objets non identifiés par des drones, tout en subissant le brouillage de leurs communications. Voici ce qui caractérise cette attaque. Attribuée par la flottille à Israël, bon, a priori il n'y a pas de preuves matérielles de l'implication du gouvernement israélien là-dedans, l'agression n'a occasionné que des dégâts matériels. Toutefois, elle a mis les Européens en demeure de clarifier leur position du fait de la présence de nombreux de leurs ressortissants européens sur ces bateaux. Parmi eux, l'eurodéputée française Rima Hassan, l'activiste suédoise Greta Thunberg. Ce développement intervient alors qu'en Italie et en Grèce, l'écart se creuse entre les opinions et l'approche des gouvernements sur ce que nombre d'organisations internationales qualifient de génocide à Gaza. Soyons clairs, s'il ne serait-ce qu'un Italien a été blessé dans une attaque similaire, ce sera la révolte dans le pays. Alors, Beffa, tu as le sommaire. Beffa, j'étais pas là pour le sommaire. Est-ce qu'il a parlé des drones présumés russes qui ont survolé les pays de l'OTAN? Regarde, 1, 2, 3, 4e sujet. À quoi joue la Russie en Europe? C'est sous tes yeux. Soyons clairs, si ne serait-ce qu'un Italien a été blessé dans une attaque similaire, ce sera la révolte dans le pays. En Italie, on n'accepte pas qu'il arrive malheur aux nôtres à l'étranger, avertit un haut fonctionnaire italien. Or, l'éventualité de pertes humaines ne peut être écartée. Après avoir accusé la flottille du Hamas de suivre une ligne de conduite violente, le ministère des Affaires étrangères israélien a proposé mercredi le déchargement de l'aide dans un port étranger avec l'assurance qu'elle serait livrée pacifiquement à Gaza. Mais c'est pas du tout ce que veut faire cette flottille. Cette flottille, elle veut briser le blocus, symboliquement. Israël qui rappelle aussi que les forces israéliennes ne laisseront pas la flottille approcher de Gaza. Question, à mesure que cette flottille va se rapprocher de Gaza, qu'est-ce que va faire Israël? Dorian Beffa. Depuis son départ le 31 août, cette flottille fait l'objet d'un traitement particulier. Les autorités israéliennes ont menacé ses membres de les enfermer dans des prisons où l'usage systématique de la torture a été documenté par l'ONG B'Tselem. Certains de ces bateaux ont déjà fait l'objet d'attaques de drones alors qu'ils étaient amarrés en Tunisie. En 2010, quelqu'un vient de le rappeler dans le chat, et c'est une vraie info, en 2010, les forces israéliennes avaient abattu 9 membres d'une flottille humanitaire à bord du Mavi Marmara. Notre positionnement est ferme, a déclaré jeudi le ministre de la Défense italien qui s'exprimait devant le Parlement. Voilà. Il rappelait surtout que l'Italie, pas plus qu'un autre pays, ne serait en mesure de protéger la flottille en dehors des eaux internationales. De son côté, la présidente du Conseil, que dit-elle, Giorgia Meloni, continue de qualifier la flottille d'irresponsable. Mais dans son discours à l'ONU, elle a dit « La réaction d'Israël doit respecter le principe de proportionnalité et Israël a dépassé cette limite, provoquant un massacre parmi les civils. Un choix que l'Italie a jugé inacceptable et qui conduira à notre vote favorable pour certaines des sanctions proposées par l'UE. » Pardon, je corrige ce que je viens de dire. Giorgia Meloni ne parle pas du tout de la flottille. Elle parle de ce que fait l'armée israélienne contre le peuple de Gaza. J'avais mal compris cette phrase. Je relis cette phrase du coup à l'ONU. La réaction, donc ce que fait l'armée israélienne à Gaza, en réponse aux attentats du Hamas, vous l'avez compris, et la lutte contre le Hamas. La réaction d'Israël doit respecter le principe de proportionnalité et Israël a dépassé cette limite. Là, on comprend mieux la phrase. Provoquant un massacre parmi les civils. Le massacre qui se poursuit. Voilà. Et on est en train de dire que Rome va, peut-être, dans les prochains jours, prendre des sanctions peut-être contre Israël et l'Italie peut-être reconnaître l'État palestinien. Est-ce que l'Italie a reconnu à ce jour l'État de Palestine? Je crois pas. Pas encore. Mais, qui sait, peut-être. Et cette évolution, peut-être parce que justement l'opinion publique italienne, elle, est mobilisée sur le sujet. Des centaines de milliers d'Italiens ont manifesté récemment à ce propos, quoi. Donc voilà pour ce qui s'est passé avec cette flottille pour Gaza et ce qui se passe en Italie. Là, c'est Lacroix qui en parle également. Et cette flottille, vous posez peut-être la question, elle poursuit sa route malgré les embûches. Partie début septembre de Barcelone pour ouvrir un corridor humanitaire et mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien, la flottille pour Gaza poursuit sa route en Méditerranée malgré les embûches. Celle-ci ne cesse de se multiplier au fur et à mesure que les 60 bateaux avec à leur bord près de 500 personnes, humanitaires, militants, pacifistes, médecins, élus, issus de 45 nationalités, se rapprochent du but. Vous avez une carte là. Voilà. Barcelone, à gauche, Gaza. À droite. Donc il y a manifestement plus des deux tiers du chemin qui a été fait. Dans un communiqué publié mardi, la flotte a détaillé les multiples actes d'intimidation la visant, mentionnant les dispositifs explosifs et incendiaires, la dispersion délibérée de substances chimiques sur les navires civils, la neutralisation des dispositifs de communication et d'urgence et les dommages physiques calculés visant à rendre les navires inaptes à navigation et à mettre en danger les bénévoles à bord. Alors, position de Tel Aviv réitérée, ce qui est assez inquiétante parce qu'on voit que cette flotte, elle approche de Gaza. Israël ne permettra pas aux navires d'entrer dans une zone de combat active et n'autorisera aucune violation du blocus maritime. Tendu. Édito sur le même sujet de l'Humanité. Je vous lis ce qui, dans cet édito, n'a pas été évoqué dans les articles précédents. Ce qui se joue dépasse le seul sort de cette flottille, estime Cédric Clairin. Un État menace désormais des ressortissants de 44 pays hors de ses eaux territoriales. Certains gouvernements ont pris leurs responsabilités. L'Italie, l'Espagne, l'Irlande ont décidé d'envoyer des navires pour protéger leurs citoyens. Leurs concitoyens. Cette réaction n'est pas tombée du ciel. La perspective d'une grève générale, le blocage annoncé du port de Gênes par les dockers ont contraint Giorgia Meloni à agir. Et la France, se demande l'Humanité. Le pays qui prétend prendre la tête d'un mouvement mondial pour la paix reste immobile. Ni navire, ni condamnation des attaques, ni mise en garde adressée à Israël. Rien sinon une déclaration minimaliste du Quai d'Orsay expliquant que les participants à cette expédition en faveur de Gaza ont été informés des risques encourus. Et promettent une simple protection consulaire. Pourtant, la levée du blocus et l'entrée des journalistes à Gaza figurent noir sur blanc parmi les objectifs affichés de la diplomatie française. Aujourd'hui, 51 de nos concitoyens sont exposés à une menace directe, estime l'Humanité. Si un drame devait survenir, l'exécutif porterait, estime l'UMA, une lourde responsabilité. Bah, la question qui est posée, c'est celle-ci, c'est que va faire l'armée israélienne, que va faire Israël à mesure que cette flottille d'une cinquantaine de bateaux va approcher de Gaza. Merci Drakeos pour ton raid, j'espère que vous avez bien changé sur l'actualité ce matin. Est-ce que la vie des passagers de cette flottille est menacée ou pas, quoi. Ils vont intimider, dit Rikloff. Salut Drakeos. Il fait froid, je vais fermer la fenêtre là. Il fait froid en ce moment. Hein. Il y a Adèle et Nel à bord? Attendez. Adèle et Nel, la comédienne? Oui, j'ai la fenêtre ouverte, oui, ce qui est un peu con, ouais. Il y a Adèle et Nel dedans? Ah ouais? Ah ouais? Ah la vache. Ok. Ok. Elle a fait une déclaration sur BFM ce matin, me dit Drakeos. Salut, qui a eu une bonne journée. Quel est ton avis sur le mouvement de cette flottille, me demande Pierre. Bah, je trouve ça courageux. Je trouve ça très courageux. Et surtout, la cause me semble juste. On en reparlera bien sûr. Alors voilà, en Moldavie. Si on m'avait dit hier soir, demain Samuel va vous parler de la Moldavie pendant une demi-heure, je vous aurais pas cru. Parce que j'avoue que quand j'ai lu l'article, d'abord je me suis dit, je vais pas parler des élections législatives en Moldavie. Non, bah, on a rien à foutre. Puis après, j'ai lu l'article et en fait, je me suis dit, mais si, mais c'est en fait, c'est extrêmement intéressant. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on est à 1h56. On va être 1h57. C'est assez passionnant en vrai. Alors, je corrige aussi sur TikTok. On en est où? On en est là. Sommaire. Allez, ouvre-toi, petit sommaire. Voilà. Je vais fermer la fenêtre aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, on ferme la fenêtre. Sinon, on va tomber enrhumé. Il serait bien dommage. Salut, Franck Ski. Je pense que c'est important d'aérer des pièces pour la santé, c'est bon. Hein. Mais ça commence à cailler, là. Alors, Jean Aymar pose une très bonne question. Mais si le peuple en Moldavie vote pour un pro-russe, est-ce démocratique, Samuel? Bah, ça dépend dans quelles conditions ce vote est sous influence ou pas, quoi. Voilà. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des législatives sous l'œil de Moscou en Moldavie. C'est le titre de Libération. On est page 6 dans le Libé d'aujourd'hui. C'est quoi les infos? Les élections de dimanche, c'est ce dimanche, c'est dans 2 jours. Oppose un parti pro-européen de l'actuelle présidente Maia Sandu aux forces politiques qui en Moldavie sont fidèles à la Russie. On a vu tout à l'heure sur une carte que la Moldavie c'est juste en dessous de l'Ukraine. Prête à tous ses forces proches de la Russie pour faire basculer le vote dans le sens voulu par le Kremlin. En Moldavie, les élections se suivent et se ressemblent. Peu importe qu'il s'agisse de voter pour les maires, les députés, la présidence, le vrai enjeu des scrutins est toujours géopolitique. Pro-européen contre pro-russe, espoir d'intégrer l'Union européenne contre nostalgie de l'URSS et du gaz à bon marché. Le parti de l'action et de la solidarité de la présidente européenne Maia Sandu risque de perdre sa majorité absolue, acquise en 2021. Il est en lice avec trois adversaires principaux, le bloc patriotique de l'ancien président pro-russe Igor Dodon, poursuivi pour des actes de trahison commis lors de son mandat, le bloc alternatif constitué par des candidats qui prétendent sortir du clivage Est-Ouest, mais souvent lié à la Russie, et notre parti du populiste fantasque Renato Ousati. À ces entités officielles, il faut ajouter un quatrième acteur qui agit dans l'ombre, le réseau de l'oligarque Ilan Shor, l'homme lige de Moscou, qui s'emploie par tous les moyens à influencer le vote. Le PAS, le parti, a clairement mis l'accent sur les enjeux géopolitiques du vote. Son programme est construit autour d'un objectif principal, rejoindre l'Union européenne peut-être dès 2028. Oui, Abricot sec, on l'a perdu, Old Linux. Ouais, je suis triste. Il doit être un peu plus sec. Donc, parti pro-européen, l'opposition, elle, accuse ce parti de jouer cette carte pour mettre au second plan son bilan contesté. Mais dans ce pays, les partis ont toujours été construits sur une orientation plus géopolitique que politique, explique une sociologue, c'est intéressant. Avec une nuance toutefois, les pro-russes, les partis pro-russes, ne s'affichent jamais comme tels, préférant défendre une politique étrangère pragmatique ou l'énergie bon marché. Pour cette élection, le bloc patriotique cherche surtout à accuser le parti au pouvoir d'autoritarisme. Son site internet se résume à un décompte avant le vote et la fin du régime du PAS. L'importance donnée à l'élection par la propagande du Kremlin, qui va jusqu'à clamer que l'Europe s'apprête à envahir la Moldavie. Ah bon ? L'Europe s'apprête à envahir la Moldavie ? Attends, on nous donne pas les infos aussi. Dingue ça. Même en Transnistrie séparatiste, contrôlée en coulisses par les services russes, la télévision encourage les citoyens moldaves à aller voter. Le but du Kremlin est clair, dit la présidente actuelle. Il s'agit de s'emparer de la Moldavie par les urnes, de nous utiliser contre l'Ukraine, de nous transformer en plateforme de lancement pour mener des attaques hybrides contre l'UE. Cette semaine, la présidente a repris la parole pour avertir ses concitoyens. Notre souveraineté, notre indépendance, notre futur européen sont en danger. Si la Russie prend le contrôle de la Moldavie, les conséquences seront immédiates. L'Europe s'arrêtera à notre frontière, comme les fonds européens. Son parti fait face à un adversaire bien résolu à ne pas jouer selon les règles démocratiques. On rentre dans le vif du sujet. Plusieurs enquêtes journalistiques ont mis au jour des réseaux de désinformation en ligne, organisés, financés par des acteurs liés à Moscou. Le gouvernement estime que lors des deux scrutins de l'automne dernier, présidentiel et référendum sur l'Europe en Moldavie, la Russie avait dépensé environ 150 millions d'euros pour influencer le résultat du vote, soit 1% du PIB moldave. Cette campagne législative semble suivre la même tendance. Les autorités ont alerté sur le risque de contestation post-électorale, en particulier si le PAS arrive en tête. Lundi, la police a arrêté une centaine de personnes accusées de préparer des opérations de déstabilisation qui auraient été formées lors d'un séjour en Serbie à la résistance aux forces de l'ordre et au maniement d'armes de poing par des membres des services spéciaux russes. Si la plupart des sondages placent le PAS en tête des intentions de vote, le parti semble loin d'être capable de rééditer son exploit de 2021 quand il avait obtenu 53% des voix. Il y a Jean Neymar qui essaie de développer des arguments pro-russes dans le chat depuis tout à l'heure. Alors ça va de « Samuel, est-ce que tu n'as pas honte ?» à « Samuel, es-tu satisfait de payer ton énergie aussi chère ?» qui est littéralement l'un des arguments des partis pro-russes en Moldavie en disant « Votez pour nous, pro-russes, comme ça vous paierez votre gaz moins cher. » J'adore. C'est littéralement Vladimir Poutine qui est dans le chat, quoi. Je kiffe. Je me régale, moi. Je me régale. J'attends la suite des arguments de Jean Neymar / Vladimir Poutine. Et on a, dans Libé, toujours page 7, un article sur comment des fonds pro-russes pourraient financer une campagne de désinformation comme ce qui semblerait s'être passé en Roumanie. Le pays, donc la Moldavie, redoute le même scénario que la Roumanie. Qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie ? Alors que la campagne électorale a été dominée par une vaste campagne de désinformation de Moscou via des contenus viraux sur TikTok. Alors lisons, qu'est-ce qui est intéressant dans cet article ? Comme en Roumanie l'an dernier, la campagne électorale en Moldavie s'achève ce vendredi et s'est menée en grande partie sur Internet. En France aussi, bientôt sera comme ça. Et a été dominée par l'ingérence de Moscou. L'application TikTok, qui comptabilise plus d'1,5 million d'utilisateurs dans un pays comptant 2,4 millions d'habitants, c'est énorme, est devenue un vecteur majeur de la propagande russe. Alors, si vous posez la question de savoir à quoi ressemble cette propagande russe, vous prenez tous les propos depuis 10 minutes de Jean Neymar dans le chat, et vous avez une espèce de listing assez précis, assez concret de ce que dit la propagande russe sur ce qui se passe actuellement en Europe. Jean Neymar est à deux doigts de nous dire, je sais pas, il a peut-être déjà dit que l'armée russe est en train de libérer l'Ukraine actuellement. Jean Neymar, tu l'as dit que l'armée russe est en train de libérer l'Ukraine ou pas encore? Attends, j'ai peut-être raté. Jean Neymar, tu as parlé de la libération de l'Ukraine par la Russie ou pas? La dénazification. Oui. Si, il va nous dire un truc. Ah, voilà, bah tu vois, je savais que ça allait venir. J'en ai marre, de points ouvrir les guillemets. Est-ce que tu as dit qu'il y avait énormément de gentils nazis ukrainiens? On est littéralement sur tous les mots utilisés par Vladimir Poutine au début des opérations militaires en Ukraine. Ce sont exactement les mots de Poutine. C'est incroyable. Bon, je ne suis pas beaucoup trompé. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. En fait, je n'attendais pas que tu irais jusque-là. Je pensais que tu dirais, ouais, faut pas tout mélanger, etc. Et, tout. Et tu y es quand même allé. J'adore. J'adore. Alors, continuons. Donc, qu'est-ce qui se passe en Moldavie? Donc, 1,5 million d'utilisateurs de TikTok, 2,4 millions d'habitants. Et TikTok est devenu, a priori, essayons de comprendre pourquoi, un vecteur majeur de la propagande russe. Faux compte, désinformation coordonnée, manipulation des algorithmes, les réseaux du Kremlin ont mis sur pied une armée numérique rémunérée. Comme l'a documenté, quelqu'un me disait, c'est Jean Neymar d'ailleurs, quelles sont les preuves? Comme l'a documenté le média d'investigation moldave, Ziarul de Garda. Deux journalistes ont pu s'infiltrer dans un groupe d'activistes minutieusement instruits. Et leur enquête montre comment les réseaux de l'oligarque pro-russe Ilan Shor amplifient de manière coordonnée des narratifs préétablis, calibrés pour passer sous les radars des plateformes. Voilà. Oui, tu as raison, c'est TikTok qui devient un peu toc-toc. Un scénario, et là on va parler de la Roumanie, qui rappelle la surprise roumaine de l'automne 2024, lorsque Kalin Georgescu, candidat d'extrême droite. Alors je rappelle ce qui s'est passé en Roumanie, c'est hyper intéressant. Un scénario qui rappelle la surprise roumaine de l'automne 2024, lorsque Kalin Georgescu, candidat d'extrême droite jusque-là inconnu, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Artificiellement propulsé sur TikTok, quelques jours seulement avant le scrutin, qui finalement sera annulé. Pour Madalina Voina, coordinatrice au sein du think tank Expert Forum, le parallèle est d'autant plus frappant que des comptes utilisés pour Georgescu s'intéressent désormais aux élections moldaves. Les mêmes comptes. Certains ont supprimé leur activité passée, mais gardent toute leur infrastructure, puis sont réactivés avec un nouvel objectif. Vasil Kostiuk, le candidat du parti moldave Démocratie Akaza, soutenu par l'extrême droite roumaine, bénéficie aussi d'une visibilité amplifiée. Expert Forum a identifié un réseau coordonné de 17 comptes TikTok ayant contribué à sa promotion. Dans leur rapport, les experts soulignent que le réseau présente des indices clairs de comportement inauthentique, avec 993 comptes soldats qui suivent systématiquement les mêmes profils. Selon la police moldave, la Russie aurait injecté 300 millions d'euros pour influencer les législatives de 2025, notamment par la désinformation. Objectif, faire échouer le camp de Maya Sandu, sans pour autant soutenir un parti en particulier. Les vidéos visent surtout à dénigrer le parti au pouvoir, les acteurs politiques pro-européens. Pour les services spéciaux russes, l'enjeu est l'altération de l'orientation pro-européenne de la Moldavie. Depuis début septembre, la police moldave a signé des centaines de vidéos mensongères auprès de TikTok. On retrouve principalement des faux sur l'implication de la Moldavie dans la guerre en Ukraine, tiens donc. sur les fraudes présupposées dans le processus électoral ou encore des discours de haine à l'encontre des dirigeants. Le décryptage des intox prend aussi de l'ampleur au sein de la société civile, dans le sillage du média Stop False, lancé en 2017, qui fait aujourd'hui figure de référence. Le site dénonce quotidiennement les fausses informations, redirige les lecteurs vers des ressources plus fiables, mais l'effet de ces efforts reste marginal. Les gens ne veulent pas nécessairement connaître la vérité, c'est un des grands obstacles auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Non, Vénus de Limo, c'est très dangereux ce que tu dis, parce que Vénus de Limo dit ce que souvent les gens disent par rapport à quelqu'un qui vient émettre des idées un peu étranges dans le chat. Je suis sûr que c'est un troll, je pense que c'est un troll. Et en fait, c'est très dangereux de penser ça, parce qu'en fait, ce ne sont pas les propos d'un troll, c'est quelqu'un qui est convaincu de ses propos. Et en fait... Alors aujourd'hui, c'est un comportement qui est minoritaire, même s'il est très bruyant, hein, parce qu'il suffit de compter le nombre de messages de notre ami tout à l'heure, mais qui demain peuvent toucher, convaincre des personnes, notamment des personnes qui ne s'informent pas, ou s'informent peu, ou s'informent auprès de sources d'informations qui ne sont pas rigoureuses. Alors, il y a Antis qui est allé voir le compte de notre ami, qui s'exprime beaucoup, là. Je n'aurai pas le temps de le faire. Et tu me dis que sur son compte, il n'y a que des vidéos complotistes en republication, comme Brigitte Macron, homme, etc. Est-ce une surprise? Est-ce que vous voulez qu'on relance? Est-ce que vous voulez qu'on lance Jean Neymar sur ce sujet? Merci Franck Miller pour le raid. Donc allons à la fin de cet article. Parce qu'en fait, le piège, c'est de rentrer dans un échange avec quelqu'un comme ça qui n'est qu'une seule personne dans un. Vous êtes quasiment 600 sur TikTok et vous voyez, il y a quelqu'un depuis tout à l'heure qui impose un échange en spammant des messages. Et en fait, évidemment, il faut à la fois s'intéresser à ça parce que ça reflète un certain comportement, hein, et en même temps pas en faire le sujet essentiel de notre échange. Donc on revient à l'article de Libération. Qui parle notamment des jeunes moldaves, hein, et leur consommation d'informations. Les experts de StopFalls font beaucoup de terrain. Notamment avec cette journaliste qui anime un atelier avec une classe de jeunes électeurs qui voteront pour la première fois dimanche. Voilà. Et on a une jeune, par exemple, ici, qui redoute surtout la multiplication des deepfakes, ces contenus générés par IA, de plus en plus réalistes. On voit une personne parler, en réalité, ça n'est pas elle. Ça fait peur, dit-elle. C'est une lycéenne, car n'importe quelle personne peut ainsi être falsifiée. Elle reconnaît passer 3 heures par jour sur TikTok. Autour d'elle, certains de ses amis dédient quotidiennement 9 à 10 heures à la plateforme. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais auprès d'une population qui, pour certains de ses représentants, passe à 9 à 10 heures sur TikTok par jour, et donc pour qui TikTok est manifestement la principale source d'information, si à un moment de l'argent est injecté pour alimenter le travail de faux comptes mettant en avant de fausses informations pour influer sur une élection, c'est assez intéressant. Ouais. Bon, voilà. Voilà pourquoi on s'est intéressé un petit peu aux législatives en Moldavie ce matin. Comment s'informer correctement, du coup, être sûr de ne pas lire ou de voir des infos complètes, de multiplier les sources d'informations. TikTok en soi est une chose extrêmement intéressante. Moi, en scrollant TikTok, moi j'apprends plein de choses extrêmement intéressantes. Tout dépend un petit peu de ce que tu consommes et de ce que te propose l'algo, quoi. Donc ça dépend un petit peu de ton algo. En revanche, je pense que s'informer auprès d'un seul média, par essence, c'est dangereux. Ne lire que le même journal tous les jours, aussi excellent soit-il, c'est dangereux. Vous vous informez dans une bulle informationnelle. Donc, quand une information n'est rapportée que par un seul média, ou une même famille de médias, et que les autres médias n'en parlent pas, deux choses l'une, ou l'ensemble des autres médias est corrompu, donc ça c'est la thèse qu'on entend, ou alors il y a une forte chance que cette information soit pas tout à fait carrée, quoi. Il faut que je regarde autre chose que ton stream est en train de me dire. Mais bien sûr, l'ordre russe, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Bien sûr. Par exemple, les informations que moi je mets en avant sur cette chaîne ne sont que les informations qui, moi, m'intéressent dans la presse. Donc, c'est éminemment subjectif. Donc déjà, il y a une subjectivité qui s'exprime dans le choix des infos, dans le choix des médias, dans le choix des articles que je vais lire. Donc, je ne suis qu'une source d'information. Évidemment que tu ne dois pas... prendre pour argent comptant tout ce qui est dit ici, ni par Jean Lemar dans le chat, ni par Samuel Etienne. Esprit critique. Alors, je crois qu'on va pas tellement changer de sujet, puisque... Ah bah si. Ah oui, bah oui, c'est ça. Puisqu'on va parler maintenant... c'est le sujet suivant, mais on s'éloigne pas tellement de la Russie, vous allez voir. Donc si à un moment dans le chat TikTok vous en pouvez plus de la personne là qui spam, vous me direz, je mettrai non pas un ban def parce qu'on y reviendra la prochaine fois, on sera très heureux de l'accueillir, mais un petit Théo histoire de pouvoir lire autre chose, mais c'est vous qui prendrez cette décision. On va parler des incursions aériennes imputées par certains pays européens à la Russie. Ok, à quoi joue la Russie en Europe? C'est ainsi que j'ai résumé ce sujet. Voilà. On est toujours un peu sur le même sujet finalement. C'est le rapport entre l'Europe et la Russie. À quoi joue la Russie en Europe? C'est quoi le TC? On est sur du 2h16. Ok, let's go. Ok. Et alors, sur TikTok, je vous modifie aussi le sommaire. Voilà. Hop. Et on passe à ce sujet. Hop. Voilà. Europe, à quoi joue la Russie? C'est parti. C'est un article dans La Croix cette fois, on change de journal. Derrière les incursions aériennes russes, plusieurs jours que je vois des articles là-dessus, mais j'attendais un article un peu complet, pour ne pas en lire, pour pas en lire 10, la stratégie de la peur. La Russie nie, en dépit de l'évidence écrit La Croix, être responsable d'incursions irrégulières dans les cieux de la Pologne et des Pays-Baltes. Ces violations viseraient à quoi faire? À inquiéter les opinions publiques européennes en mettant en scène autant l'impuissance de l'OTAN que la témérité de la Russie. Des aéronefs russes dans le ciel européen, Moscou n'a rien vu. C'est du moins ce qu'affirme le porte-parole du Kremlin. Il y a une telle hystérie à propos de nos pilotes militaires qui auraient prétendument enfreint certaines règles et envahi un espace aérien, a déclaré mercredi Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Plusieurs pays européens accusent la Russie de vouloir provoquer une escalade en violant de manière répétée depuis début septembre leur espace aérien. Qui dit ça? Plusieurs pays européens. Bon. Le 19 septembre, trois avions de combat russes MiG-31 sont entrés dans l'espace aérien de l'Estonie, y restant 12 minutes. 10 jours plus tôt, une vingtaine de drones russes ont pénétré en Pologne, on en avait parlé un petit peu à l'époque. Trois d'entre eux ont été abattus par les avions de chasse sous commandement de l'OTAN, c'est un peu tendu quand même, action inédite dans l'histoire de l'Alliance Atlantique. Depuis quelques jours, de mystérieux drones parasitent les aéroports du Danemark, suscitant de lourds soupçons à l'endroit du Kremlin. Le gouvernement danois n'a pas attribué la responsabilité à la Russie, mais ne l'exclut pas. Le gouvernement danois n'a pas attribué la responsabilité à la Russie, mais ne l'exclut pas. Cela s'inscrit dans l'évolution qu'on a pu observer dernièrement avec d'autres attaques de drones, des violations de l'espace aérien, des cyberattaques contre des aéroports européens. C'est ce que déclare la première ministre danoise Mette Frederiksen. C'est l'aéroport de Copenhague qui a été survolé. Merci, merci Jean, merci Nelly. Pour l'heure, le ministre danois de la Défense se borne à estimer que ces actions seraient l'œuvre d'un acteur professionnel sans nommer la Russie. Salut Zabou. Autant d'actions de nature très diverses qui créent par leur succession rapide une image d'ensemble pour le public et qui sert d'effet psychologique et politique probablement recherché par Moscou selon plusieurs observateurs. Bon, c'est de l'analyse. Le but est de nous faire peur, estime un ancien aviateur militaire, Xavier Tittelman, spécialiste de quoi? Des questions d'aéronautique et de défense. Il s'agit de montrer qu'ils n'ont pas peur de nous, qu'ils sont prêts à aller à la confrontation, mais que nos gouvernants sont faibles, sont fragiles, et donc ils voudraient mieux lâcher l'Ukraine et les Baltes que de risquer une confrontation avec la Russie. Un point de vue que rejoint le ministre danois de la Justice, selon qui les incursions au-dessus des aéroports danois cherchent à semer la peur, à créer la division. En outre, dans les cas des incursions en Estonie et en Pologne, puisqu'il y a plusieurs pays européens concernés, une première raison possible serait aussi la volonté de tester la réaction militaire et politique de l'OTAN. Militaire en observant la fermeté de la réaction choisie, le dispositif défensif présent, le temps nécessaire à l'interception ou à la destruction des avions et des drones et l'efficacité de cette défense. Politique en jugeant aussi la manière dont les pays de l'Union européenne et les États-Unis parviennent ou non à s'entendre pour définir une ligne commune. Alimenter les divergences entre Washington et l'Europe est de longue date un objectif de Moscou, de même qu'aggraver la fracture entre les dirigeants européens et leurs opinions publiques. C'était un test de la réponse de l'OTAN, à la fois sur le plan tactique et politique, estime également un historien spécialiste de la Russie qui s'appelle Marc Galeotti. Avec ces manœuvres, Moscou nous dit quoi? Regardez combien les choses sont dangereuses, comment elles pourraient l'être plus encore. Souvenez-vous, nous sommes plus dangereux, déterminé, téméraire, est-ce que vous voulez vraiment vous frotter à nous? Mais tout en notant qu'une réponse musclée s'impose sans nécessairement aller jusqu'à abattre les avions russes, l'expert s'interroge, ne serait-il pas préférable de réagir moins vivement à ces incursions? Peut-être ferions-nous mieux, dit-il, de minimiser, voire même de tourner en dérision, ces incursions comme des coups tordus d'un despote puéril, dit encore cet expert. Mon inquiétude est que nous plus nous donnerons d'importance à ces actions, plus elles en auront. Voilà. Je vous lis un petit peu là-dessus et on enchaîne. Joli. Non, non, Master Caillou, c'est un plaisir. Les deux chats, j'aime bien, moi. Surenchère qui peut s'avérer très dangereuse, estime Mel. Merci, mamie Colette. Anesthésie, framboise, c'était quoi ce matin? Dent de sagesse? Ok. Bon. Plusieurs jours que je voyais des articles là-dessus, je voulais absolument vous en parler au moins une fois. On verra si on aura besoin d'en reparler dans les prochains jours de ce sujet, de ces incursions russes selon les pays européens qu'on vient de citer. Alors, après la Russie, on va aux États-Unis. En se posant cette question ce matin, est-ce que les États-Unis sont en train de devenir une autocratie? On va essayer de définir autocratie, bien sûr. Voilà. Est-ce que, pour dire les choses autrement, Trump est en train d'abîmer la démocratie américaine. Article dans quoi ? Dans la Croix. C'est un débat, en fait. Merci, Jeanne. Les États-Unis sont-ils en train de glisser vers l'autocratie ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump et son administration se sont employés à étendre leur pouvoir et mettre au pas ceux qui s'y opposent. Est-ce au point d'altérer la nature même du système politique américain ? C'est la question. Alors déjà, le journal revient sur l'affaire Jimmy Kimmel, vous savez, l'animateur de la chaîne ABC qui a été mis à pied. Et puis finalement, devant la mobilisation de ses... Ah, 2h24, merci. Devant la mobilisation des spectateurs, il est revenu à l'antenne. Il a même battu un record d'audience de fou. 2h24. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a El Caméléon qui dit « Autocratie, non. Idiocratie, oui. » L'un n'empêche pas l'autre. Alors, Trump a dit « Je crois que nous allons tester ABC sur ça. » Le président Trump a promis un procès, alors c'est pas la première fois qu'il fait ça, un procès à un média, un procès à la chaîne américaine, carrément, pour avoir permis au comédien Jimmy Kimmel de reprendre le 23 septembre son émission satirique. Donc on a un président américain qui a clairement dit qu'il estimait que Jimmy Kimmel ne devait pas être à l'antenne. Il l'a dit très clairement dans plusieurs déclarations, estimant que le gars n'avait aucun talent. Donc on a un président américain qui dit qui doit y avoir à la télé. Et puis là, maintenant qu'il est revenu à la télé, il dit qu'il va faire peut-être un procès contre la chaîne. Ça va assez loin quand même. Au-delà du cas de cet animateur très populaire, les menaces contre ses adversaires sont devenues monnaie courante depuis le retour du magnat à la Maison-Blanche. Et elle demeure rarement des paroles en l'air. Avant même sa réélection, il y a près d'un an, des voix s'élevaient aux États-Unis pour dénoncer le projet autoritaire de Trump. Le républicain avait nié vouloir être un dictateur, sauf le jour 1, avait-il lancé par défi. De fait, le jour de son intronisation en janvier dernier, le président avait signé des dizaines de décrets, lançant une offensive majeure contre toute une série de contre-pouvoirs, notamment en actant la fondation du Doge, qui a été dirigé à un moment par Elon Musk, vous vous rappelez, puis finalement aujourd'hui ils s'entendent plus du tout, une organisation vouée à la suppression de pans entiers de l'État fédéral, offensive qui se poursuit aujourd'hui. L'essence de la démocratie américaine, c'est le partage des pouvoirs et le contrôle qu'ils exercent ces pouvoirs les uns contre les autres. Or, on observe une tentative de booster le pouvoir exécutif. C'est Vincent Michelot, qui est un professeur de politique américaine à Sciences Po Lyon, qui l'exprime. Les deux chambres sont contrôlées par le Parti républicain, totalement acquis à Trump. Le président a par ailleurs tenté de mettre la main sur les agences fédérales, théoriquement indépendantes, comme la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale. Il a licencié des milliers de fonctionnaires dans différentes organisations, au FBI, au sein même de l'armée, pour les remplacer par les fidèles. En décembre prochain, la Cour suprême doit décider si le président a le droit ou non de révoquer des responsables de toutes les agences fédérales, voilà, un jugement qui pourrait être justifié par la théorie de l'exécutif unitaire. Voilà. C'est une théorie qui défend depuis les années 80 une interprétation élargie des prérogatives du président américain. L'attaque la plus spectaculaire par l'administration Trump vise le pouvoir judiciaire. Il y a, écrit Romuald Sciorra, qui est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, il y a une mise au pas progressive de la justice américaine par la peur et la menace. Les grands cabinets d'avocats sont intimidés. Les juges qui émettent des avis défavorables sont personnellement visés par Trump et ses alliés, dit-il. Chaque décision judiciaire défavorable fait l'objet d'un appel. Les affaires remontent régulièrement à la Cour suprême, globalement alignée avec le président, qui a nommé plusieurs de ses membres. Selon des données collectées par un universitaire de Stanford, Adam Bonica, entre le 1er mai et le 23 juin 2025, les cours fédérales ont rendu 83 jugements contre l'administration Trump, et 5 seulement allant dans son sens. Dans le même temps, la Cour suprême a validé la position du pouvoir exécutif 15 fois sur 16. En juin, elle a rendu un arrêt empêchant les cours fédérales de bloquer à l'échelle nationale une décision présidentielle. Et Romuald Sciorra, le même, dit « Ceux qui disent que Donald Trump n'a pas de projet autoritaire, sont les mêmes qui annonçaient à une époque qu'il n'avait aucune chance d'être élu. » Contrairement à son premier mandat, le président dispose cette fois du contrôle du Parti républicain et d'une ligne politique claire incarnée par des figures comme le vice-président J.D. J.D. Vance. Alors, qu'est-ce que c'est l'autoritarisme? Qu'est-ce que c'est l'autocratie? Deux politologues américains, Steven Levitsky et Lucan Way, ont théorisé dans les années 90 le concept d'autoritarisme compétitif, qui désigne un régime hybride où le multipartisme, il y a plusieurs partis, c'est pas un parti unique, les institutions démocratiques, les élections existent, on est donc dans une définition de ce qu'est la démocratie, merci Sky, tout en étant faussé, c'est comme le Canada Dry pour les plus vieux, ça ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool, tout en étant faussé par la mainmise d'un clan ou d'un parti sur l'ensemble des institutions. Les deux chercheurs estiment que les États-Unis peuvent désormais être classés dans cette catégorie depuis le retour au pouvoir de Trump. Donc on est, selon ces deux chercheurs, avec un régime qui a l'apparence de la démocratie, mais qui, par le fonctionnement de ses acteurs politiques, Trump et ses partisans, en fait, constitue une illusion de démocratie réelle. L'administration n'a pas besoin d'attaquer toutes les voies critiques pour faire taire la contestation. Des actions légales sur des institutions de premier plan comme le New York Times ou Harvard pourraient avoir un effet dissuasif sur les autres structures, disent-ils. Depuis, Trump a réclamé 15 milliards de dollars de dommages d'intérêt pour diffamation contre le journal new-yorkais. Vous imaginez un journal qui se voit poursuivi par un président américain, le président qui lui réclame à titre personnel 15 milliards de dollars de dommages et intérêts. Vous imaginez bien que certains médias, certains journaux, aux finances parfois fragilisées, vont réfléchir à deux fois avant d'écrire des choses. La poursuite a été abandonnée. Non, il a été débouté. C'est pas tout à fait la même chose. Avant d'écrire des choses négatives contre Trump. Voilà. Et Trump poursuit toujours Harvard. Une différence nette persiste avec d'autres régimes autoritaires compétitifs quand même. Hein. Le parti républicain n'est pas assuré de remporter la victoire aux élections de mi-mandat. En novembre. C'est là où on est encore dans un régime démocratique. Hormis un redécoupage plus favorable des circonscriptions pour la Chambre des représentants, le pouvoir dispose de peu de leviers. L'argent privé, qui est le plus important pour financer les campagnes aux États-Unis, échappe à tout contrôle. Ça, c'est une vraie différence avec le système politique français, où l'utilisation de l'argent privé dans le cadre des campagnes électorales est extrêmement encadrée, confère l'affaire Sarkozy qu'on a évoquée tout à l'heure. Quoi. Aux États-Unis, c'est pas encadré. Quoi. Et l'essentiel de l'argent qui est dépensé dans une campagne électorale, c'est de l'argent privé. Quoi. A priori, les démocrates peuvent gagner les élections en 2026 et 2028, donc. Mais il estime que, ce chercheur, les choses ne seront plus jamais dans ce pays. Avec un président dominant tous les autres pouvoirs, les États-Unis ne sont déjà plus tout à fait le même pays. C'est pas inintéressant. Je vous lis. Une personne qui veut faire taire des médias par la force, ça s'appelle une dictature. Alors les chercheurs préfèrent parler d'autocratie. Parce qu'il y a encore des élections libres, il y a encore des partis d'opposition, notamment. Ah mais tu as tellement raison. Scorefrag. Et là, je pense parler pour beaucoup de personnes ici en disant que les informations actuelles sont toujours plus stressantes, source d'anxiété, même de sentiment d'impuissance. C'est tellement important ce que tu dis. Mais tu sembles tout à fait calme par rapport à toutes ces informations. Quel est ton point de vue de manière générale sur toutes ces informations, de la relativisation, point d'interrogation, une prise de recul? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça et plutôt l'innocence et l'ignorance de notre côté? Alors, vous n'êtes ni innocent ni ignorant, mais effectivement, tu as raison. Moi, mon tech là-dessus, ma conviction, qui n'est que ma conviction et qui peut être complètement erronée, c'est que l'humanité a toujours été une dinguerie. On en parlait avec Carlito hier soir, avant de partir en five-tack sur Valo. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain se caractérise par une capacité à faire le bien et le mal, à être un ange, un être doué d'amour comme un monstre. Il suffit de lire les journaux pour se persuader tous les jours. Depuis toujours. depuis toujours. C'est juste qu'on s'en rend un peu plus compte maintenant parce qu'on est beaucoup mieux informé qu'on ne l'a été avec des informations qui nous racontent ce qui, nous, qui se passe dans notre pays et ce qui se passe dans la Terre entière, non-stop, chaîne d'infos en continu, internet, réseaux sociaux, radio, télé, etc. Donc, on a un peu plus conscience que ce monde est une dinguerie, qui n'a pas encore signé toutes les conditions de sa disparition totale, pas encore, mais on s'en rend un peu plus compte qu'avant, quoi. Donc, pour moi, ça n'est... comment dire ? J'allais dire, c'est pas beaucoup plus grave qu'avant. Si, si, hein, quand même, la question du changement climatique fait que il y a quand même des choses qui arrivent devant nous qui peuvent être un peu compliquées. Mais ce que je veux dire, c'est que ce spectacle, il est anxiogène. Voilà. S'informer, c'est anxiogène. S'informer, ça peut littéralement même vous faire un peu de mal, de vous abîmer, de vous déstabiliser, vous créer du stress, voilà, de l'anxiété. Donc, s'informer, je crois que c'est important. Je crois que c'est important pour être un citoyen éclairé et comprendre à peu près ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Donc, voilà. Mais attention à la dose que vous vous infligez. Effectivement, voilà. Parce qu'à aucun moment, s'informer ne doit provoquer ce sentiment d'anxiété chez vous, quoi. Il faut vous protéger de ça. Donc moi, je donne plein de petits conseils. Évitez de consommer, de surconsommer les chaînes d'infos des heures par jour. Virez-moi toutes les notifications de vos téléphones, de vos tablettes, de vos ordinateurs sur ces infos soi-disant essentielles qui popent sans arrêt sur vos terminaux. En mode bien stressant, hein, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais c'est quoi cette histoire de la BCE qui veut absolument qu'on ait du liquide dans la maison, tu vois ? C'est une vraie info, mais quand tu l'analyses un petit peu, finalement, elle n'est pas si inquiétante que ça, mais il faut y passer du temps. Et donc, attention à la manière dont vous vous exposez à l'information, choisissez vos moments, c'est quand vous voulez, quand vous le souhaitez, voilà. Et c'est pour ça que la presse écrite, pour moi, est intéressante. Un journal de presse écrite, c'est une action volontaire de ta part, tu vas prendre un journal, tu vas le lire, tu vas choisir les infos que tu vas consommer en tournant les pages, voilà. Elle ne s'impose pas à toi comme un journal télé qui s'impose à toi. Tu ne choisis pas son contenu, les sujets que tu veux voir. Tu es assis chez toi et tu vois défiler les infos. Même chose pour les chaînes d'infos en continu. Même chose pour les choses qui pop dans ton téléphone. Ça n'est pas une action que tu as souhaité, voulu. Il y a un comportement passif. Tu ne te rends pas compte que les algorithmes aujourd'hui te forcent à voir une info sans que tu l'aies demandé. Bah, c'est ça, Jarouf, je vous demande de ne pas vous exposer à ces algorithmes, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Les algorithmes, pour le divertissement, c'est très très bien. Pour l'info, c'est une catastrophe. Voilà. Tu es obligé d'y être exposé. Non, moi je n'y suis pas exposé. Je ne consomme pas les chaînes d'infos. Je n'ai aucune notification sur mes téléphones. Voilà. Je ne cherche pas à m'informer sur des réseaux sociaux. Voilà. Je lis la presse. Tu n'es pas obligé d'y exposer. Et comme le rappelle Défécateur dans notre chat, sur des applis comme TikTok, tu peux aussi contrôler un peu ce que t'envoie l'algorithme avec la fonction « ça ne m'intéresse pas ». Bonjour Samuel, à quelle heure sont upload les matinales sur Spotify ? Normalement, c'est vers 16h. Tous les jours. Parfois, tu scrolles et tu te retrouves face à une information horrible et c'est assez difficile de passer outre. C'est peut-être pour ça qu'il faut pas trop scroller. Alors moi, quand je scrolle sur TikTok, je n'ai pas de contenu horrible parce que bizarrement... Je dois consommer toujours les mêmes choses. J'ai toujours la même chose. Moi, j'ai de la musique. En ce moment, j'ai plein de trucs des Smashing Pumpkins, par exemple. J'ai de la musique. J'ai des mecs qui font de la batterie. J'ai des gens qui font du sport. Voilà. Et j'ai pas de dinguerie. Sans doute parce que l'algorithme a détecté que quand il m'en envoyait une, ça m'intéressait pas, quoi. Parce que je ne compte pas principalement sur TikTok pour m'informer, quoi. Il y a des choses passionnantes sur TikTok, mais... je suis pas sûr que ce soit l'outil dont j'ai besoin pour m'informer. Justement parce que je veux pouvoir choisir exactement ça. Je veux savoir qui m'informe, quoi. Et pas une image, une info sur un compte dont finalement je sais pas qui est derrière. même avis que... Ah, c'est Billy Joel a fait une chanson là-dessus, Pauline, sur la théorie comme quoi ça a toujours été le bordel. We didn't start the fire pour dire que ça a toujours été le bordel. Exactement, Scorefrag. Ok. Quelle heure il est? 12h30, c'est bon. Mon prochain type de boulot, c'est à 13h. Là, on était avec la croix et on va lire. En fait, non, on va pas lire. Le Parisien, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, pourquoi on va lire et pas lire Le Parisien? Ce qui était dans le sommaire tout à l'heure, vous le savez. On est sur du 2h39 en TC. Donc, pour le podcast, justement, et pour les replays. Ah, je fais des bêtises. Elle est où, ma parenthèse? Ah bah. Parce que mon clavier est très loin quand je lis là. Mon clavier est très loin. Mais. Parce que je suis sur mon iPad. Ah. Bon bah 2h40 du coup. Voilà. Oh! J'ai pas de clavier numérique sur mon. C'est un clavier de gamer. Tout petit pour pouvoir voyager pour mes compétitions e-sport. Ah, quand même, j'ai 2 heures à faire le truc. Ah, pourquoi on va lire Le Parisien et pas lire Le Parisien? Parce que Le Parisien n'est pas sorti aujourd'hui. Ça, c'est la dernière une du Parisien. Je vais aller vérifier, mais non. Quand ce matin, j'ai voulu télécharger Le Parisien, comme tous les jours, il n'y avait pas de Parisien, c'était Le Parisien de la veille, ça. Jeudi 25 septembre. Jusqu'à preuve du contraire, on est le vendredi 26. Alors, Le Parisien qui sort pas, je peux vous dire, ça arrive pas souvent, quoi. Alors, je retourne sur Le Parisien, parce que peut-être que Le Parisien est sorti. Je quitte Le Parisien, je réouvre Le Parisien. Il n'y a pas de Parisien. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grève. Il y a de l'inquiétude, il y a de la colère. Alors, je vous ai mis un article de Libération là-dessus, parce que l'Humanité, ces derniers jours, a écrit sur les inquiétudes aux Parisiens. Et c'est pareil, ce matin avec Libération, rumeur de vente à Bolloré, mais pas seulement, les journalistes du Parisien en grève. Moi, c'est un truc qui m'inquiète pas mal. En proie aux rumeurs de vente au milliardaire conservateur réactionnaire Vincent Bolloré, ainsi qu'à des menaces de suppression de postes, les salariés du Parisien entrent en résistance. Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue hier, à l'appel de plusieurs syndicats, les salariés du quotidien ont voté la grève à 72%. Dans le détail, bon ça c'est le détail du vote, vous l'avez ici, la grève a pris effet dans la foulée et se poursuivra jusqu'à ce vendredi 23h59. Voilà. Alors est-ce qu'il y aura un journal demain? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y en a pas aujourd'hui. J'ai pas changé le sommaire? Si, c'est vrai. Autant pour moi. Sur TikTok, je l'ai pas changé. Merci, merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes incroyable. Hop, merci. Vous êtes super. Ok. Voilà. Donc, on ne sait pas si le journal disait Émeric Renoud, délégué syndical CNJ, paraîtra vendredi. Non. Et si on aura demain, on verra. Dans un communiqué... Le Parisien qui va donc enfin arrêter sa propagande gauchiste, dit Zlitonien. Ah bah si tu espères un Parisien qui relaie plutôt les idées d'extrême droite, Zlitonien, tu vas être servi. Il y a Zlitonien qui est sur le point de s'abonner au Parisien parce qu'il va être racheté par Bolloré. Voilà. Dans un communiqué consulté par Libé, les délégués syndicaux du Parisien expliquent être dans l'attente d'un rendez-vous avec la présidence du groupe, les Échos, le Parisien, parce que les Échos font partie du même groupe, et la direction générale du journal pour obtenir des réponses sur 2 points principaux. Ils exigent d'abord à minima 17 embauches en CDI, auxquelles la direction s'est engagée dans le cadre d'un accord. Voilà, puisque les journalistes du Parisien disent qu'on n'a pas les moyens de faire correctement notre info. Deuxième revendication, les salariés opposés au projet de vente du Parisien au groupe Bolloré, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi le milliardaire Bernard Arnault, si ce n'est pas gauchiste, c'est l'extrême droite. Ah ben non, mais Vincent Bolloré, Sadakou, Vincent Bolloré, c'est News. C'est Europe 1, c'est le journal du dimanche. Et quand tu regardes la ligne éditoriale de ces médias, pardon, mais on est sur la droite / extrême droite. C'est juste, c'est un fait. C'est même pas un jugement. Il suffit de le lire, quoi. Tu vois. D'ailleurs, Le Parisien n'a jamais été un journal de gauche, par ailleurs. Bon. Là, on parle de fait. Continuons. Bolloré, il donne une ligne éditoriale aux journaux qu'il achète, qui est assez clair quand même. Hein. Mais certains s'en réjouissent. Hein. Certains vont se mettre à lire Le Parisien, du coup, d'après ce que je vois dans les commentaires. C'est très bien, c'est très bien. Donc, il y a des rumeurs, qui ne sont que des rumeurs, puisque les deux milliardaires évoqués ne commandent pas, ne parlent pas. Il y a des rumeurs comme quoi le milliardaire Bernard Arnault, patron de LVMH, qui détient aujourd'hui Le Parisien, en aurait marre de perdre de l'argent, puisque Le Parisien perd de l'argent, et voudrait le vendre à un autre milliardaire, Vincent Bolloré, voilà, qui s'est caractérisé par une ligne éditoriale très à droite, mise en place sur les médias qu'il a racheté, ce qui est documenté. Donc, les journalistes sont inquiets, ils sont en grève, ils exigent des garanties sur le maintien d'un titre de presse d'information nationale et locale composé de journalistes indépendants. Interrogé mardi par les représentants du personnel, le PDG du groupe Les Échos Le Parisien, qu'est-ce qu'il a dit le PDG ? A déclaré « Il n'y a pas de processus de vente du Parisien en cours, à ma connaissance. » Les syndicats reprochent à la direction de remplacer par des contrats temporaires des départs prévus dans le cadre du plan de réorganisation. Il y a des trous partout, on ne peut pas travailler dans ces conditions. On craint pour la santé des journalistes, notamment dans les éditions départementales, déplore le syndicaliste Émeric Renoux. Donc il y a aussi une inquiétude sur les moyens à leur disposition pour faire correctement leur travail. Le plan de réorganisation prévoit la suppression de près de 40 postes. Donc, le Parisien, c'est un journal qui perd de l'argent aujourd'hui. En mars, l'annonce avait entraîné une grève de 24 heures, une motion de défiance contre la direction. Le Parisien aujourd'hui en France, qui est le troisième quotidien le plus diffusé en France, hein, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Bon, ça, ce sont les faits. Maintenant, je vais répondre à vos questions parce qu'il y a plein de questions. Par exemple, il y a Bob Flex qui dit « Le principe du journalisme n'est-elle pas la neutralité des propos ?» C'est un concept hyper séduisant, la neutralité. Mais en fait, il ne fonctionne pas. Pour comprendre ce qu'est un média ou déterminer ce qu'on doit en attendre. La neutralité n'existe pas. Quand un journaliste écrit un article, tout en se décrétant neutre, tout en se proclamant neutre auprès de ses lecteurs, il ne l'est pas. Il est dans un journal qui a une ligne éditoriale. Il a un journal qui s'appelle Le Figaro, La Croix, L'Opinion, Les Échos, Ouest France, Le Monde, qui éditorialement a une certaine couleur, voilà, liée à la somme des articles qu'il a publiés. Ce journaliste, soi-disant neutre, il est le produit d'une éducation, d'une naissance, il est né en France ou au Canada, en Afrique du Nord ou en Russie, et il est le fruit des valeurs d'une civilisation, d'un pays, un instant T, d'un parcours personnel, de lecture, d'un positionnement politique personnel. Donc, il peut avoir l'illusion de faire un travail de neutralité, il peut même le promettre à ses lecteurs, et en fait, il n'est jamais neutre, puisqu'il est plein de filtres, conscients idéalement ou inconscients, qui vont venir influer sur son travail de journaliste soi-disant neutre. Plutôt qu'au concept de neutralité, moi je préfère un autre concept qui est le concept d'honnêteté. D'honnêteté, de rigueur. D'un journaliste qui dit, écoutez, alors voilà ce que j'ai compris de ce sujet, voilà ce que j'essaie de vous l'expliquer, mais... J'ai mes filtres, j'ai mes travers, et peut-être que mon analyse n'est pas la bonne, quoi. C'est le travail qu'on essaie de faire ici. Donc je préfère cette exigence d'honnêteté et de rigueur que de neutralité. Sinon, chaque média pourrait affirmer qu'il est neutre, alors que pourtant tous ces médias ont des analyses divergentes de l'actualité. Voilà. Donc à vous de chercher les médias les plus rigoureux et les plus honnêtes, plutôt que les médias les plus neutres, parce que ces médias neutres n'existent pas. Et par exemple, quand on cherche à qualifier la ligne éditoriale du Parisien, ce qu'on a essayé de faire ici, à un moment je vous ai dit, mais le Parisien, quelle ligne éditoriale ? Conservateur, journal conservateur, libéral, social-démocrate, gauche radicale. Bon. Quand on fait ce travail, dans le chat, ça pop, oh, Parisien, droite, centre-droite, gauche, centre-gauche. Voilà. Bon, c'est assez intéressant parce qu'il suffit de vous lire là maintenant tout de suite dans le chat et vous allez me donner, c'est très intéressant d'ailleurs, des qualificatifs extrêmement différents pour qualifier le Parisien. Voilà. Ça veut dire que ce... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne éditoriale de ce journal n'est pas très claire. Et pas très affirmée. C'est assez intéressant. Alors que pour Libération, pour Le Figaro, pour l'Humanité, pour l'Opinion, pour La Croix, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus net. Tu vois, je vois par exemple, Rimeck, le Parisien, droite conservatrice. Ziltonien, gauche. Joli cœur, libéral droite. C'est intéressant. Voilà. Donc c'est pas une neutralité, c'est un journal qui donne pas très clairement une couleur politique à son contenu, le Parisien. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime bien, moi. Et puis il a un contenu assez propre à lui. Dans le Parisien, vous trouvez des infos que vous ne lisez pas ailleurs. Il y a une tradition d'enquête, de reportage, de proposer dans ses pages, dans ses colonnes, des articles que vous ne lirez pas ailleurs sur d'autres actualités. Il a vraiment une ligne éditoriale qui est assez complémentaire d'autres journaux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le Parisien. Voilà. Et là, je suis en train de vous dire, sur le fond, ce que je pense de cette histoire. Merci pour l'abonnement anonyme offert à Mimi Mati. Ok, d'accord. Vous lirez le pseudo sur Twitch, je ne peux pas le lire. Mais il est très drôle. Que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans le cadre de l'émission sur TF1 au bénéfice des Restos du Cœur qui va être publiée dans pas longtemps. Là, j'ai joué juste à côté d'elle. Vous avez vu le pseudo, ouais. Et donc, je vais vous dire ce que je pense de cette histoire. Moi, j'aime bien le Parisien parce que j'aime bien ce côté un peu inclassable et ce contenu assez différent des autres journaux. Voilà, j'aime bien ce Parisien. Voilà. Et comme Gatan Pison vient de l'écrire dans le chat avec une analyse assez subtile, ben, s'il passe chez Bolloré, tu vas être très vert. Exactement. Alors, je ne le dirai pas comme ça. Pas tout à fait avec ces mots, mais effectivement, je trouve que ce serait une très mauvaise nouvelle. Voilà. L'info à la Bolloré, on la connaît. Il suffit d'allumer CNews. Il suffit d'écouter Europe 1. Il suffit de lire le journal du dimanche. Donc, on ne peut pas dire que Vincent Bolloré et ses idées soient censurées en France. Il a de très gros médias déjà pour exprimer ses idées. Est-ce qu'on doit donner, ou plutôt vendre, à Vincent Bolloré un autre grand média pour donner encore plus d'écho à cette ligne éditoriale? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est ma prise de position. Vous la partagez pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Mais moi, j'aime bien le Parisien comme il est. Voilà. Existe-t-il un moyen d'empêcher ce genre d'opération? Non. Si Bernard Arnault décide de vendre pour un bon gros chèque le Parisien à Bolloré, rien ne peut l'empêcher, sauf la loi sur la concentration de la presse. Enfin, il y a un truc en France, mais je ne suis pas sûr que cette vente rentre dans ce cadre-là, quoi. Voilà. Donc, très officiellement... Je vais faire ça très officiellement, attendez. Bougez pas. Je vais lancer un appel. Alors c'est pas ça, c'est ça. Donc très officiellement, ce vendredi 26 septembre 2025, je lance un appel à Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH et actuel propriétaire du Parisien. Je lance un appel en lui disant: je sais que vous perdez de l'argent avec le Parisien qui aujourd'hui n'est pas un journal bénéficiaire. Il se murmure que vous êtes fatigué et là de perdre de l'argent avec ce journal, qui je trouve est aujourd'hui un excellent journal, que je lis depuis 30 ans. Hein, et j'ose émettre l'idée que votre santé financière, personnelle et celle de votre groupe, vous permet peut-être de soutenir capitalistiquement cet excellent journal, qui est nécessaire à un équilibre que nous avons en France au sein des quotidiens nationaux de presse écrite, puisque on a une ligne éditoriale du Parisien qu'on ne retrouve dans aucun autre journal, qui est assez intéressant. Je trouve que c'est un bon journal. Donc je lance cet appel solennel à Monsieur Arnault pour qu'il ne vende pas le Parisien. Et plus concrètement encore, puisque ce sont les rumeurs qui circulent, qu'il ne vende pas le Parisien à Vincent Bolloré, autre milliardaire, qui détient déjà plusieurs médias de premier plan, Europe 1, Canal+, CNews, le journal du dimanche. Voilà. Voilà pour ma position sur le sujet. Bernard Arnault, gardez le Parisien. Voilà, comme ça j'ai lancé mon appel. Samuel, il va vendre à Bolloré et ciao, bonsoir. Tu penses vraiment qu'il va écouter ton message? Sois sérieux, voyons. Bien sûr qu'il va écouter mon message. Je te rappelle que tu parles au futur président de la République en 2027 et que tout milliardaire qu'il est, il a peut-être intérêt à soigner ses relations avec celui qui sera à l'Élysée d'ici 2 ans. Donc, conseil d'amis. Merci, Mel. Bon, on enchaîne. Voilà. Bon, l'occasion d'en reparler. Peut-être que ces rumeurs sont infondées, mais. Donc, disons que quand on interroge les deux milliardaires qu'on vient d'évoquer, qu'on leur demande est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment autour du Parisien, ces deux personnes ne répondent pas. Voilà. S'il n'y avait rien, ils pourraient le dire. Ben, Arnaud dirait ben non, vous inquiétez pas, il n'y a aucune menace sur le Parisien, j'aime beaucoup le journal, je vais continuer à le soutenir. Voilà. Si aucun des deux n'en parle, c'est que ça doit discuter sec. Si je puis me permettre. Hein ? Personne n'est dupe. Y aura-t-il toujours cette revue de presse quand tu seras élu ? Oui. Enfin, on fera ça juste depuis l'Elysée, c'est tout, quoi. Ça changera juste le décor sera plus joli, quoi. Nous serons sous les ors républicains. Oui, on en a parlé Doc Speaker il y a 2 jours, je crois, longuement, pendant plus d'1 heure. Du rapport sur le financement de France Télévisions. Les amis, hop, on est sur le dernier sujet. On va parler de Substack. Et on va toujours parler d'information aussi. C'est assez intéressant. Et on est littéralement à 2h57. De revue de presse, je le note pour nos amis qui nous écoutent en podcast, que je salue, et pour ceux qui vont nous regarder en replay sur Twitch et YouTube. Merci Sariana pour le Prime. Alors Substack, moi c'est un truc que je connais pas beaucoup, mais ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je vois des articles là-dessus, et j'ai trouvé un article qui est assez clair sur cette question. Substack, l'application de newsletter payante, c'est un article de Libé, qui pourrait peut-être déplumer les journaux. C'est intéressant parce qu'on vient de parler du Parisien. Qu'est-ce que je pense de Mediapart ? Que c'est un excellent média. Pas de contraintes de format, ni de ligne politique ou de rédacteur en chef. Si en France le phénomène débute, aux États-Unis le site a séduit journalistes et intellectuels qui créent un lien direct avec les lecteurs, hein, c'est la presse écrite. Pour Substack, il y a quelques polémiques dessus. T'as raison, Linux, et on va en parler, mon ami. Et parfois, juteux, avec des dizaines de milliers de lecteurs, parfois ça rapporte pas mal d'argent. Les éditorialistes ne roulent pas en Lamborghini, mais aux États-Unis, certains perçoivent des salaires de footballeurs. Les rondelets de somme viennent de Substack, plateforme américaine, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi Substack ? Tiens, il y a Guerrier sur du pain qui dit « Mais attends, je suis en train de faire mon blog sur Substack actuellement, c'est fou. » Bah oui, mais on en parle. Substack, plateforme américaine de newsletter payante qui permet à des auteurs de publier du contenu versus un abonnement. Hein. En échange d'un abonnement, articles, analyses, édito, accessibles par abonnement mensuel à partir de 5 euros. Voilà. Et avec 10% de commission pour le site. Hein. Voilà, 90% pour les créateurs, 10% pour Substack. Une manière de monétiser son public en lui proposant 50 nuances de matière grise et sans passer par un journal, sans passer par une rédaction, quoi. Hein. Un OnlyFans pour un télo, en quelque sorte, j'adore la phrase. Un OnlyFans pour un télo. Certaines vedettes outre-Atlantique comptent des centaines de milliers d'abonnés. Imagine des centaines de milliers d'abonnés qui, chaque mois, vont payer minimum 5 euros, dont tu gardes 90%. Les calculs sont bons, Kevin. Les calculs sont très très bons, Kevin.
Eh oui. Eh oui. Je vois des waouh. Eh oui.
En France, ça commence doucement. Non, on n'est pas là. L'économiste Jean Pisani-Ferry, l'éditeur Olivier Nora, Jacques Attali, Delphine Orvilleur et bien d'autres y sont inscrits timidement comme pour jauger la température. C'est de loin la meilleure source d'information que je connaisse, dit l'essayiste David Jaiz, surtout sur mes sujets du moment, tech, géopolitique, IA, avenir de la protection sociale. Des centaines de journalistes y sont déjà postés en spectateur, quelques French auteurs y publient, mais ils sont encore rares. Pour l'instant, on n'est pas encore, il n'y a pas en France encore des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur Substack. Voilà. Créé en 2017, quelqu'un m'a dit, très bonne question, mais ça vient d'où qui a créé ça? Oui, c'est disponible en France. Créé en 2017 par Chris Best, Gérard Setti et Hamish McKenzie, anciens journalistes, Substack est au départ un site de newsletter, comme il en a plein d'autres. Avec une idée, permettre aux auteurs d'établir une relation directe avec leur public et d'être rémunérés par ceux qui apprécient leur travail, explique une journaliste britannique. À mi-chemin entre le réseau social et la plateforme de blogging, Substack combine le meilleur des deux, l'intimité des newsletters à la portée d'un réseau. Il y a User qui me dit, User 2024, qui me dit, tout n'est pas payant, il y a aussi des versions d'accès gratuit. D'accord. Donc, combiner le meilleur des deux mondes, l'intimité des newsletters et la portée d'un réseau. Miser sur le long et le payant, quand la tendance est au court et au gratuit, le pari semblait risqué, il s'avère gagnant, le site affiche des dizaines de millions d'abonnés et 5 millions d'abonnements payants, contre 3 millions il y a un an, en juillet, levé de 100 millions de dollars. L'entreprise est valorée plus d'un milliard. Le truc a l'air de bien marcher. Des intello-stars se frottent les yeux et les mains, voyant leur compteur et leur compte s'affoler. La reine des lieux est une historienne, Heather Cox Richardson. Ses lettres d'une américaine, chronique de l'actualité au prisme de l'histoire, ont conquis 2,6 millions de subscribers. Elle aurait dépassé les 100 000 payants et au moins 500 000 euros mensuels. Quand tu te lances dans des études d'histoire, tu ne penses peut-être pas un jour que tu vas gagner littéralement 500 000 euros par mois en écrivant tes trucs sur Internet. Les Français ne jouent pas dans la même catégorie. Philippe Corbet, directeur de l'information de France Inter, ancien correspondant de RTL aux États-Unis, a plus de 1000 lecteurs payants. Bah, 1000 lecteurs payants, s'il y a 3-4 euros par mois qui te reviennent, bah, ça fait quand même 3-4 000 euros en plus de ton salaire, puisque manifestement, le journaliste travaille à France Inter. Victoire Tuaillon, journaliste créatrice du podcast Les Couilles sur la Table, dépasse d'autre part les 30 000 gratuits. C'est quoi les 30 000 gratuits? Alors on peut s'abonner gratuitement, on n'a peut-être pas le même contenu. Alors, okay. Son amie Lorraine Bastide, je connais Lorraine Bastide, essayiste féministe, podcasteuse, consciencieuse, substackeuse et a plus de 20 000 abonnés gratuits. Ah, donc il y a des abonnés gratuits qui ont accès une partie du contenu qui est gratuite. Voilà. Donc 20 000 abonnés gratuits et au moins 1000 lecteurs payants. Ben, 1000 lecteurs payants fois 3 ou 4 euros. Hein? Pas mal. Chacune de ces lettres envoyées le vendredi commence par bonjour les douceurs. On est loin des clashs de X ex-Twitter. Substack a toujours privilégié la profondeur au bruit. Garise Farastor, en se concentrant sur les abonnements payants à la communauté, il éloigne les utilisateurs des prises de position à chaud et les algorithmes indignés. Après le meurtre de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk, le 10 septembre, Substack postait des analyses au compte-gouttes, quand se déversait sur X un torrent de vidéos. Attention, il y a aussi des petites polémiques sur Substack, j'y viens. À X, le fiel comme carburant du scrolling, à Substack, l'enthousiasme vertueux. Putain, il est 54, j'ai une réunion à 13h. Vite. C'est le discours affiché. Autre argument de vente, la liberté éditoriale. Tous les utilisateurs la vendent, pas de contraintes de format, pas de ligne politique, pas de rédacteur en chef. Hein? Le site a séduit des journalistes ou intellectuels anti-système, attirés par la liberté de fond, la promesse d'indépendance financière. J'accélère parce que je sais qu'il y a aussi des petites polémiques. Ah, c'est là. Alors, Substack, vitrine du free speech à l'américaine. À l'automne 2023, 200 auteurs ont dénoncé l'hébergement et la monétisation d'articles au contenu antisémite et raciste. Hamish Mackenzie avait répondu « Nous n'aimons pas les nazis non plus, mais nous ne pensons pas que la censure fasse disparaître le problème. En fait, elle l'aggrave. » Donc, il y a des contenus de ce type, manifestement sur la plateforme. En juillet, rebelote, un push promeut un compte avec une croix gammée en photo de profil. Ah. Nouvelle vague d'indignation, excuse de la direction qui dit c'était un bug. Je suis parti de Substack à cause de ça en janvier 2024, raconte Pauline Armange, autrice féministe qui s'est fait connaître avec son livre « Moi, les hommes, je les déteste ». Elle est partie, par exemple. « Je ne publierai plus jamais sur Substack », dit-elle, « je suis étonné que certaines de mes consoeurs y restent ». Alors, tremplin voire pépinière de nouveaux médias, est-ce que l'appli pourrait tailler des croupières à la presse traditionnelle ? Nous n'en sommes pas là, dit François Saltiel. Oh, je connais bien, journaliste et producteur de la Fabrique de l'Information sur France Culture, mais c'est vrai, on assiste à un mouvement de personnification des médias. Déjà en marche avec YouTube, ça c'est très intéressant. Et une fragmentation de l'espace en une constellation médiatique. Regardez, un gars, comment il s'appelle le vieux là ? Le vieux schnock là, qui est arrivé sur Twitch là. Et... Samuel Etienne. Bah, Samuel Etienne, pendant 30 ans, il a travaillé pour Radio France Internationale, pour Europe 1. Pour France Inter, pour iTélé, pour France 4, France 2, France 3. Voilà. Et puis maintenant, bah, il travaille surtout pour lui. Voilà. Il a créé son petit média. Voilà. C'est la personnification de l'info. Liberté, Canal+, aussi. Ouais. Liberté, indépendance. Voilà. C'est hyper séduisant, quoi. Parle bien de Samuel, me dit Lane. Et en fait, le journaliste est en capacité de devenir sa propre chaîne, sa propre marque. Et ça c'est assez séduisant, en fait. Tu ne dépends plus d'une hiérarchie, tu n'obéis plus aux directives d'une direction. Voilà. Tu fais ce que tu veux, quoi. Avec rigueur ou pas rigueur. Mais comme le dit Olinox, c'est un luxe incroyable. Tu te sens plus libre ? Ah bah oui, c'est ça. Merci Karine Roy. Oh. Bah oui. C'est fascinant, tu choisis ta ligne éditoriale. Eh oui. Après, le viewer, il valide ou pas, il aime ou pas, il regarde ou pas. Mais toi, en tant que créateur de contenu, ben, tu as cette liberté qui est fascinante. Mais ça veut dire que tu deviens journaliste et entrepreneur. Bah oui, Elias, exactement. Ce que certains pourraient dénoncer comme un mélange des genres, mais à un moment, oui, c'est toi qui gères ton truc, quoi. Mais c'est passionnant. Et tu gagnes ta vie avec cela. Oui, Gatan, c'est l'idée. Ouais. Alors, je vais être tout à fait transparent. Hein. Je gagne ma vie grâce aux sponsors et aux marques qui accompagnent mon contenu. Si je devais juste me contenter de la monétisation liée aux vues, hein, ou aux abonnements, bah ça ne suffirait pas pour le Samuel Etienne que je suis aujourd'hui, quoi. Mais avec le sponsoring et l'accompagnement des marques, j'en vis. Pauline, dis-tu non à certains sponsors et marques ? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Mais de plus en plus, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un nouveau modèle qui est en train de naître. Et aussi en presse écrite. Est-ce que si Vincent Bolloré te finance la matinée Étienne, ça va. Alors, ce serait pas possible. Le capitalisme t'a eu. Oh, mais le capitalisme m'a eu il y a très longtemps, Vince. Il y a Vince qui dit, je comprends l'analyse. Hein. Le capitalisme t'a eu, mais le capitalisme il y a eu il y a très longtemps. Quand je travaillais pour Canal+, qui appartenait à c'était qui à l'époque le grand groupe ? C'était Vivendi. Bah, j'étais déjà un suppôt du capitaliste. C'est pas moi qui discutais directement les contrats, mais le groupe Vivendi négociait pour Canal+ des pubs avec des grandes marques. C'est la même chose. C'est juste moi qui décide aujourd'hui qui m'accompagne ou pas, quoi. Quand je travaillais pour Europe 1, pareil. Moi, je travaillais dans le privé, dans le public. Donc, j'étais déjà un suppôt du capitalisme avant. C'est juste que j'avais pas le droit voix au chapitre, quoi. Aujourd'hui, je peux dire ce que j'en pense et je peux, par exemple, accepter ou refuser de travailler avec telle ou telle marque. Quoi. C'est dommage parce qu'au début, on pensait vraiment que tu faisais ça pour nous informer sans attendre de monétisation, dit Elkush Docteur. Alors, c'est faux et c'est vrai. Au début, je l'ai fait il y a 5 ans parce que je découvrais l'outil. J'étais salarié par ailleurs de France Télévisions. Et j'ai même, au début, il n'y avait pas de monétisation sur Twitch. Vous ne pouviez pas vous abonner à ma chaîne. Donc, non seulement je le faisais moi parce que je trouvais ça passionnant et je voulais explorer cet univers, mais j'avais même interdit qu'on s'abonne à ma chaîne. C'était impossible. Et après, ce travail a pris de plus en plus de place et est devenu l'essentiel de mon travail. Donc, je reprends la question qui m'était faite. Attends, où est-ce que tu étais ? C'est dommage parce qu'au début, on pensait vraiment que tu faisais ça pour nous informer sans attendre de monétisation. À partir du moment où ça devient mon travail principal, et de très loin aujourd'hui, s'il n'y a plus de monétisation, je vis comment ? C'est la question, en fait. Ben, comme avant, c'est-à-dire que je vis de ma passion. Ma passion avant, c'était de faire de l'information à la télé et à la radio. Ben, maintenant, ma passion, c'est de faire la même chose, mais sur Internet. Donc, il faut que je puisse en vivre, quoi. Voilà. De même que vous, je suppose que si vous allez au travail, oui, je suis en train de ma réunion. Je suppose que vous, si vous allez au travail, vous attendez aussi un salaire, même si vous l'aimez ce travail. Je suppose. Ouais, je suis à la bourre de ma réunion. Allez, je vous quitte jusqu'à dimanche. Désolé. Jusqu'à dimanche. Ami de TikTok, je vous quitte, je suis en retard. À ma réunion, je vais me faire engueuler. On cut le live sur TikTok. Dimanche soir, retour des lives sur Twitch, ça me plaît, avec Trinity, mon émission du dimanche soir, la découverte de l'univers des jeux vidéo. Hein, c'est la 3e saison et on se régale. Et on se retrouve pour la revue de presse, pour ceux que ça intéresse, lundi sur Twitch et sur TikTok. Je vous quitte, prenez soin de vous, passez une belle fin de semaine. Faites attention, en ce moment, il y a des petits virus et il fait froid. Prenez bien soin de votre santé. À très vite. On cut sur TikTok. Et le Twitch, on fait un petit raid. Évidemment, même si je suis un petit peu en retard, j'ai honte, j'ai pas fait attention, mais alors quand on discute. Qui est en live ? Il y a encore Antoine Daniel qui est en matinale, j'adore. Il y a Nini qui est en live aussi. Il y a Leclerc, il y a Monody, il y a Jardy Stream qu'on a raid hier, il y a Broco. Il y a l'ami Sakor. En vrai, moi je trouve ça cool qu'Antoine Daniel. Antoine Daniel, normalement, il est une semaine en live. Antoine Daniel, hein, c'est pas 16 heures, mais là, post the event pour un donation goal, un faux donation goal, parce qu'en fait, il avait oublié que cette année, il n'avait pas fait de donation goal matinale. Mais il a quand même fait les matinales, je trouve ça plutôt sympa. Donc. Voilà, c'est son dernier jour de matinale. Il est sur PUBG, un jeu que j'adore. Donc, allons voir l'ami Antoine Daniel. C'est parti. Prenez soin de vous, je suis littéralement en retard à mon rendez-vous. On se retrouve dimanche soir pour Simplay. Et puis, je vous donnerai des nouvelles de ce gros stream qui arrive là, je crois le 7 octobre, c'est un mardi, qui sera mon plus gros stream de la rentrée. C'est parti. Prenez soin de vous, soyez heureux. Reposez-vous bien ce week-end. Vous informez pas trop. Chill, chill. À dimanche soir, avec Trinity, avec Joe, ça va être super. Bye bye. Merci pour ce matin, c'était trop top. Ciao.
Que j'aimerais trop faire.